Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Quête latérale, épisode de juin 2022. Bonjour à tous et bienvenue. J'espère que vous allez bien. On est tous réunis ici, tous ou presque, évidemment, pour parler, évidemment, de jeux vidéo de façon transverse pour la prochaine heure qui suit. LOL, évidemment, à côté de moi, Chloé. Comment vas-tu, Chloé ?
Bah écoute, ça va bien. Ça sent les vacances.
C'est vrai.
Même si c'est pas encore les vacances, mais je sais pas, il y a une petite atmosphère qui te donne envie de genre, oh, pff, et si on allait faire la sieste ?
Ça s'appelle la vie pour moi normale.
Tous les jours, la vie normale de la sieste. Daz est avec nous. Bonjour Daz.
Bonjour Ken, bonjour Chloé, bonjour Fibre, bonjour Zu qui réalise aujourd'hui. Écoute, puisque tu me le demandes sans me le demander, ça va très bien.
Félicitations pour ton succès pour le dernier podcast Commute.
Ouais.
J'ai appris à quel
meilleures
point...
Meilleures audiences ever.
J'ai appris à quel point les audiences étaient bonnes.
Quel était donc le critère qui a changé, je ne sais pas.
Secret.
À tout moment, si les audiences deviennent meilleures dans Quête Latérale, sans moi, évidemment,
tu sais que tu es irremplaçable sur Commute, j'ai dû faire un cosplay Ken Bogard au début, tu vois, pour rentrer un peu dans le truc. Donc,
Je prends les enseignements, tout ça, évidemment, me retire immédiatement de la vie politique. Fibre Tigre est avec nous.
Et oui, je suis de retour.
Ah, waouh!
Parce que t'étais parti, du coup.
Là. Ouais, en fait, j'avoue, mais là, il se trouve que je dois être à Paris, donc l'occasion fait les ailes le larron. Voilà.
Dis-moi que tu vas bien, Fibre, quand même.
Alors, je vais bien.
Parce que là, c'est pas évident.
Par contre, sur mon activité de jeu, il y a peut-être un signe avant-coureur compliqué, parce que je me suis remis au jeu PC.
Ouh là là, attends, jeu PC,
tu parlais de
4X
Non.
Il joue à des point and click à la con.
Je joue à des point and click, c'est vrai.
D'accord.
À la con.
Mais voilà, je me suis dit, je vais peut-être faire du GTA sur PC. J'ai retrouvé, en fait, je me suis dit...
Parce qu'il existe sur console, en fait.
C'est vrai, mais je me suis dit, c'est vrai, la console, c'est bien, mais le PC, c'est bien aussi. Voilà, je sais pas pourquoi.
Très bien.
Il invalide 8 ans d'émissions diverses et variées cet avis.
Je suis en plein trouble, voilà.
C'est incroyable, je suis moi-même troublé par ces déclarations.
Alors moi, excusez-moi, mais je vais être obligé de tirer sa veste jusqu'à la fin de la vie maintenant, parce qu'il vient d'avouer finalement que j'avais raison depuis le départ.
Écoute, je peux encore changer d'avis. Mais
on a
là,
fait quasiment des émissions sur ton avis sur les consoles.
C'est vrai. Cette personne du passé avait raison et à la fois.
Le paste fibre.
Le PC a plusieurs aspects positifs, mais il y a aussi des aspects qui font un peu rager. Mais voilà.
Hier, par exemple, j'ai voulu tester la compilation Capcom Fighting Collection PC. Donc, je télécharge le jeu sur PC. Je branche mon stick. Et là, évidemment, mon stick ne fonctionne pas. Quel plaisir. Alors, je me dis, mon stick a un problème. Je lance n'importe quel autre jeu Capcom. Il fonctionne parfaitement. Mais sur ce jeu-là, il ne fonctionne pas. Et à chaque fois que je veux jouer
c'est
un jeu,
compliqué, ouais.
Ça m'arrive. Ce genre de truc. Moi et le PC, c'est compliqué quand même. Ouais, mais je veux l'aimer.
Il le ressent. Le PC, c'est un animal.
Ouais, c'est vrai.
Il ressent les traîtres.
Vous savez, on rigole, mais je pense que c'est vrai. Je pense que vraiment, il y a un côté ésotérique qu'on n'a pas encore cerné dans le PC. Voilà, ce ne sont pas des produits formatés.
Google a déclaré la première intelligence artificielle consciente. On n'est peut-être pas loin, évidemment, du soulèvement des machines. 3 chroniques et 2 pauses. C'est évidemment le programme de ce quête.
On peut faire 3 pauses
latérales ou 3 pauses.
En fait, il y aura plutôt 2 chroniques. Hein. Parce que moi, ça ne sera pas une chronique, ce sera plus un point média.
Point média.
Attends,
point
si Daz, il a une micro-chronique, ce qu'on peut faire,
c'est, trois pauses.
C'est tu poses les questions de la pause à Daz et il doit répondre en une minute.
Oh punaise. Ah, ah bah, ouais, si tu veux. Vraiment. Alors là, pareil, il y a 33 questions, attention, dont certaines très philosophiques. Hein.
Le jeu vidéo est-il un art total? Et lui, il va dire non, next.
Prends pas cette voix-là quand tu dis ça, c'est terrible.
Ça donne déjà un avis sur la question, mais ok.
Très bien, bah, incroyable. Bref, on va commencer avec la première chronique et c'est Fibroti qui va nous parler de Eurojank.
Alors, qu'est-ce que c'est?
Gothic, Risen, Elex, Two Worlds. On va parler Eurojank. Alors, c'est pas junk, c'est junk, J-A-N-K.
Ouais, junk, ouais.
Alors, junky, en anglais, ça veut dire de mauvaise qualité. Alors, donc, c'est pas, comme vous comprenez, c'est pas un terme positif. Il faut pas dire à votre créateur de jeux vidéo préféré, ah, c'est trop de l'Eurojank, tu vois.
Alors, mais, pourquoi Euro, du coup?
Alors, justement, on va en parler, parce que ça regroupe une catégorie de jeux, de production de jeux, mais aussi de modes de consommation que j'ai pas bien vu identifier dans d'autres secteurs, comme les livres, le cinéma, tout ça. Et c'est très propre aux jeux vidéo et c'est assez intéressant. Contrairement au nanar, qui peut se définir par c'est tellement mauvais que c'est bon, l'Eurojank, c'est plutôt si t'arrives à oublier vraiment les gros problèmes, il y a un truc. Voilà. Voilà.
Okay.
Ce qui est assez rare dans le livre ou dans le cinéma, parce qu'il y a des éditeurs, tandis que n'importe qui peut sortir un jeu. Rock Paper Shotgun définit l'Eurojank par ces mots. C'est un jeu qui essaye d'être au niveau des AAA sans en avoir les moyens. Alors pourquoi Euro, que nous disait Daz? Bon, on pourrait dire déjà plutôt Europe de l'Est, parce que Gothic, Risen, The Witcher 1, tout ça c'est de Eurojank. On est plutôt du côté de l'Allemagne, de la Pologne, et puis surtout il y avait des exemples français que je voulais pas dire parce que je voulais que ce soit encore mes amis. Mais en gros, un jeu AAA qui en a pas les moyens, c'est un peu notre proverbe à nous les Français. On n'a pas de pétrole, mais on a des idées. D'ailleurs, depuis que je sais qu'il y a du pétrole en Guyane, je me demande si on a déjà eu des idées. Bref, l'Eurojank, c'est donc un jeu avec des défauts apparents. Alors le jeu sur lequel ce terme a été le plus utilisé historiquement, c'est un jeu européen qui a eu vraiment des gros problèmes à sa sortie et tout le monde en parlait.
Paris-Marseille Racing.
Non.
Tout le monde en parlait du coup en mal.
Tout le monde disait il y a des gros problèmes, c'est de l'Eurojank.
Okay. Cyberpunk.
Exactement. C'était Cyberpunk. Ouais. Alors Cyberpunk, c'est un très mauvais exemple. Parce c'est là où le mot Eurojank était. Ça veut dire que Eurojank, en fait, c'est un terme qui commence à être galvaudé. Il commence à perdre un peu sa substance.
Ouais, je vois.
C'est pour ça qu'on est là pour. Mais pourquoi, par exemple, Skyrim n'est pas de l'Eurojank? Skyrim, il a des bugs. D'ailleurs, Cyberpunk avait des bugs.
Ouais.
Mais il y avait toutes les publications clickbait de mauvaise qualité, qui ne sont pas le Figaro, qui ont fait leur beurre sur 10 hilarious bugs in Skyrim, par exemple, souvenez-vous. Et en fait, les défauts de Skyrim, ils ne masquent pas la grandeur du jeu. On peut les compter, les défauts, on peut les circonscrire. Dans un jeu junkie, eh bien, ce sont les aspects positifs que l'on peut compter. On peut compter un petit peu les anti-bugs d'une certaine façon.
Donc, surtout, le problème de Skyrim, c'est que, si je me trompe, c'est pas du tout européen.
Oui, c'est pas européen.
Alors ça, c'est pas le problème.
Ça a pris son essence en Europe, tu vois, ça a pris son origine en Europe, le terme, mais aujourd'hui, ça dépasse.
C'est comme le Rodents, quoi. Tu peux en faire même si t'es pas européen.
Oui, il y a un jeu, par exemple...
Moi, c'est le Ksoge, j'appelle ça jeu de merde, tu vois, en japonais, on dit Ksoge.
Voilà, il y a un jeu qui s'appelle Outworld, par exemple, qui est sorti récemment, typiquement de l'Eurojank, il est canadien. Donc, oubliez Euro, mais... Mais parlons du feeling général d'un jeu Eurojank. Typiquement, t'as un personnage en 3D vu de dos à la Lara Croft / Skyrim en vision épaule, quoi. Parce qu'ils veulent tous être plutôt dans cette gamme-là. Ils veulent viser les AAA. Donc tu lances un sort. Il y a un éclat violet. Il y a un bzit.mp3 libre de droit. Donc là, on est typiquement dans l'anti-Nintendo où le moindre effet spécial va être polish nuit et jour sur la petite table de l'ébéniste. Là, ils s'en foutent. Ils ont fait ça et ils vont pas plus loin. Et pourquoi ces jeux existent? Et pourquoi il y a des fans de ces jeux? Il y a des gens qui réellement, ils ont dit qu'ils étaient hypés par Elex 2, par exemple. Est-ce que ça vous dit quelque chose, Elex 2?
Ça me dit quelque chose.
Donc Elex 2, c'est la suite de Elex. Mmh. Et Elex, c'est un jeu très compliqué, d'accord? Et le jeu Elex 2, il est sorti en même temps que Elden Ring, tu vois, c'était vraiment un suicide pas possible. Et il y a des gens qui disaient, waouh, trop bien, Elex 2 sort, ok, d'accord. Bon, voilà, vous rigolez pas, mais si vous connaissiez Elex, franchement, c'est vraiment...
T'écris ça comment?
Elex, E-L-E-X, c'est vraiment de... Okay. C'est du pur Eurojank, c'est-à-dire c'est un personnage... c'est un monde médiéval fantastique avec des vaisseaux spatiaux.
Ah, twist.
Mais voilà, enfin bon, il faut le voir pour comprendre, mais... En tout cas, il y a, alors on pourrait dire les gens qui aiment ça, ça pourrait être du syndrome de Stockholm. Donc moi j'ai une anecdote à ce sujet, j'ai quelqu'un qui travaille avec moi, on va l'appeler Bernard. En fait, je lui délègue mes lectures fantasy. J'ai pas le temps de lire des bouquins de fantasy. Donc Bernard lit de la fantasy, il dit de temps en temps, putain mais ça, Vita Nostra, Le Nom du Vent, c'est trop bien, lis-le, tu vois. Et en fait, au fil du temps, il a commencé à me recommander des bouquins qui étaient pas bien. Je comprenais pas. Des bouquins qui étaient vraiment genre, genre du Twilight, mais du sous Twilight. Et, ouais. Et en fait, il était tellement dans la fantasy, il était tellement dans le truc qu'il pouvait plus supporter les grands bouquins. Il était obligé, il voulait trouver les petits trucs qui étaient bien, qui avaient un petit défaut, les trucs baroques. Et en fait, je pense que c'est pas trop le syndrome de Stockholm, s'il y a des gens, ils ont tellement joué à des jeux que ils ont tellement poncé Far Cry 1 à 6 qu'en fait, ils savent déjà ce qu'il y aura dans le 7.
C'est pas faux.
En fait, ils s'en foutent. Le 7, ça ne leur rapportera rien et ils préfèrent souffrir dans un jeu, vraiment se sacrifier tout parce qu'ils vont trouver un truc qu'ils trouveront pas dans Far Cry 7.
C'est 100% Stockholm, par contre.
À discuter. En tout cas, voilà, il y a quelque chose dans l'Eurojunk qui n'est pas de l'ordre du charme, mais de la recherche et du développement. Donc, Outwards, par exemple, dont j'ai parlé, c'est un jeu canadien, c'est un Skyrim sans fast travel. Il y a 3 musiques.
Après, il n'y en a que 2 dans Valheim, mais ça marche.
Voilà. Mais alors Valheim, il a ce truc de dire on est en alpha, un peu comme Star Citizen. Là, ouais, dans Skyrim, sans fast travel, donc en gros, c'est un simulateur de rando, tu as ta tente, voilà.
Tu vois, je suis intéressé, moi, personnellement.
Two Worlds 2, c'est un Skyrim encore, en Afrique et au Japon, qui a un doublage troublant. Donc, je vous invite vraiment.
Un doublage troublant.
Ouais, troublant. Je vais vous raconter une anecdote. On n'a pas les moyens, mais je vous invite à taper Two Worlds 2 VF. Il y a une vidéo de 1 minute 50. Elle a pleuré de rire. Mais je vous donne une anecdote. Donc, le doublage, il a été fait sans contexte.
Alors ça n'annonce que du bon.
Donc, à un moment.
Ah, j'avoue.
Tu vas voir un marchand qui est un alchimiste et tu lui demandes une potion et il te dit prends ça. Mais le mec qui a doublé, il pensait que c'était... Je lui donnais un coup, tu vois. Donc le mec, il dit « Prends ça !» Tu vois. Je vais chercher la potion. « Prends ça !» Ok, d'accord. Donc voilà le truc de...
Ça le fait bien.
Donc, mais, Two Worlds 2, il a un système de magie combinatoire et physique absolument ouf. Par exemple, dans ce jeu, on peut faire pleuvoir des enclumes. Mais on peut aussi créer une tornade autour de nous. Mais quand on fait les deux en même temps et qu'on fonce dans un groupe d'ennemis, c'est pas ouf. Et ben, moi, il n'y a que dans ce jeu que j'ai vu des trucs fou comme ça. Donc, vous voyez, il y a le système de magie. De la même façon, vous pouvez voir la VF et vous dites « Ah !» Et vous pouvez faire Two Worlds 2 Magic System et vous allez avoir une vidéo où vous allez halluciner où ils balancent des enclumes sur des rhinocéros. Voilà. Donc...
ce qui préside à... Parce qu'on connaît tous, tu vois, les jeux à licence... un peu bâclé parce qu'il y a la licence et qu'ils savent que ça va se vendre. Ce qui préside au développement du jeu, c'est des mecs qui se sont dit quand même, on va faire un bon jeu, ou ils se sont dit dès le départ, on va faire de la merde.
Mais en fait, non, c'est des gens qui se disent, waouh, mais Skyrim, c'est trop bien, je vais faire un Skyrim, mais ils sont 30, là où Skyrim, ils étaient 150, tu vois. Et ils ont. C'est le sweet spot qu'on appelle les double A en France, quoi. C'est-à-dire, en fait, le double A, je sais pas si ça existe aux États-Unis, enfin bon.
Bah si.
Bon.
Si.
Bon,
enfin,
en tout cas,
on a déjà utilisé le terme ici.
En tout cas, pour arriver à cette étape, c'est un peu comme votre ami qui vous dit cette série de télé, elle est trop bien, à partir de l'épisode 14, saison 2.
Oh là là, je déteste ces gens-là.
Fringe, ouais. Ça s'appelle
mais
Fringe.
À la fois, vous les détestez, et à la fois, vous êtes ces personnes-là, on est d'accord.
C'est vrai.
Beaucoup de gens n'ont pas le temps de se taper tous les épisodes pour profiter, avec 10 000 guillemets, de cet épisode 15. Cependant, je vais vous parler d'un jeu, on va faire une expérience, je vais vous parler d'un jeu, et autour de cette table, quand je vais vous décrire le jeu, vous allez dire, bon, je dois jouer à ce jeu, même s'il est moche, tu vois.
Oh mince.
Et je pense que les gens qui vont nous écouter, ils vont vouloir acheter ce jeu. Donc ce jeu, c'est Thief Simulator.
Ah ben oui, connu ça.
Simulateur de
voleur.
De voleur. Donc en fait, c'est un jeu, ça se passe probablement en Pologne, j'imagine. Et on a un voleur, on a une Fiat Panda, on roule dans une espèce de banlieue super riche et on fait un peu le tour des maisons, tu vois. On dit, celle-là, elle est riche. Celle-là, tiens, ils n'ont pas de système, ils n'ont pas de chien, ils n'ont pas de caméra et tout. T'attends que les gens partent. Tu rentres dans la maison, tu dis « Ah putain, ils ont une cave terminable. Ah tiens, la télé, je vais peut-être en avoir 40$. » Tu vois. Donc, tu prends les trucs, tu charges la télé dans ta Fiat Panda et ensuite, tu vas chez le wrestler et dis « Ah, mais encore une télé. Bon, allez, je la prends à 20$. » Tu vois. Tu dis « Ah, c'était pas une journée très bonne. » Mais tu vois, c'est vraiment une simulateur de vol, tu vois. Et vraiment, mais le jeu, il est ouf, tu vois. T'as trop envie d'y jouer, t'as trop envie de faire ça et tout. Eh bien, figurez-vous que Thief Simulator, c'est le seul jeu ever de toute ma vie dont j'ai demandé un refund.
Pourquoi ?
parce que dans ce jeu, il y a des bugs. Mais il y a des bugs du style, par exemple, voulez-vous acheter la, voulez-vous vendre la télé ? Oui, non. Bah, le oui et le non sont inversés parfois par rapport au jeu. Tu dis oui, il la vend pas, tu vois. Mais parfois, tu vois, c'est en plus, tu vois, c'est un peu.
Ah, c'est pas que c'était.
Non, ouais. Voilà. De temps en temps, t'es en train de transporter ta télé dans la nature et ta Fiat Panda, elle a disparu. Voilà. Elle a disparu, elle reviendra jamais. T'es obligé de recommencer le jeu depuis le début.
Mais peut-être donc, tu te l'es fait voler.
Bah, ça peut être, tu vois. Et tu vois, Thief Simulator, je voulais l'aimer, mais à un moment, j'ai dit, bah non, ce jeu, je suis désolé, il est trop bien, mais il est pas jouable, j'ai pas la force. Il y a des gens qui ont réussi. Et d'ailleurs, j'ai bien fait de pas continuer parce qu'il y a des gens qui sont fous de Thief Simulator et ils ont dit bah, le jeu est infinissable parce que la dernière mission est buggée. Pourquoi les petits gars de Thief Simulator ne se sont pas accrochés comme l'équipe de No Man's Sky et tenté de l'améliorer ? Ben parce que le système Eurojunk, il veut que c'est plus simple de sortir Thief Simulator 2. C'est-à-dire qu'ils vont sortir Thief Simulator 2, tous les bugs seront corrigés. Mais comme ils veulent taper plus haut, eh ben, ils auront une nouvelle feature de ouf, genre des musées procéduraux, totalement buggés cette fois-ci. Il n'y aura pas de porte d'entrée, par exemple, mais ils auront aussi gagné leur vie. Et c'est un peu ça le système itératif, c'est-à-dire il y a les games as a service, et puis il y a ces jeux-là qui disent, écoutez, on a fait de notre mieux, franchement, il est finissable parce qu'on l'a fini en interne, allez-y, faites-le, et vraiment, on a tout donné, et il y a des trucs incroyables. Parfois, et souvent, c'est des succès, parce qu'il y a des gens qui ne consomment que ça. Qui consomment, genre les Gothic par exemple, c'est des jeux. Alors, je sais que la fanbase de Gothic va dire, mais Gothic c'est trop bien, arrête de. En vrai, Gothic, ça souffre quand même par rapport, par exemple, à un simple Skyrim. Et en fait, ça fonctionne en itération. C'est-à-dire, le prochain sera le meilleur, tu vois. Le prochain, on aura corrigé des trucs, mais il y aura des nouvelles choses. Mais ces jeux, effectivement, ils auront proposé une expérience de jeu unique avant d'être oublié à jamais dans cette forêt dense de problèmes. Est-ce que Far Cry 7 pourra nous proposer, nous en dire autant. Est-ce que Far Cry 7, Assassin's Creed, je sais pas, Woodstock, s'il se passe à Woodstock, va nous proposer une expérience unique.
Assassin's Creed Woodstock.
Va nous proposer quelque chose d'unique. Eh bien, j'en doute un peu. Voilà.
Assassin's Creed. Et merci beaucoup, hein, Fibre. Il est vrai, on peut développer un amour peut-être irrationnel, hein, pour ce genre de jeu. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de jouer à des Eurojunk ici, Chloé ?
Alors, volontairement, je ne pense pas. Non, ça a dû m'arriver. Alors, je pense qu'il y a deux possibilités. C'est soit à l'époque où je faisais un peu de test de jeu pour le FIG.
Obligé.
Donc un peu obligé. Et aussi à l'époque, souvenez-vous la bonne époque des démos du PlayStation Magazine.
Oh.
Où il y avait un peu de tout et de rien. Et je suis sûre que dans le lot devait y avoir de l'eau.
Mais en fait, je pense qu'il n'y a même pas besoin de chercher. Je veux dire. Quasiment 90% des jeux au lancement d'une console, c'est de la merde. Hein.
Parce que t'exagères quand même.
Attends, il décrivait le truc. Bon. Sans déconner, je me revoyais devant ma N64 avec des jeux Titus flingués.
N64, réservoir infini.
Mais oui, en fait, les mecs qui préfèrent itérer sur le numéro 2 plutôt que de corriger, nous à l'époque, toutes les consoles qui n'étaient pas connectées.
Non, ouais.
En fait, déjà de base, là, il a décrit le monde des consoles jusqu'à Internet.
Ouais, c'est ça.
Et en fait, tu vois, je me rappelle de Automobile Lamborghini 64, là, c'était français, c'était nul, c'était Titus. Et en fait, bah ouais, j'en ai joué à une tétrachée de Twisted Metal, par exemple.
Twisted Metal,
Warhawk, tous les jeux du lancement de la PlayStation, horrible, à part Ridge Racer et Wipeout. Mm. Est-ce qu'ils font ça volontairement en se disant, on va faire un jeu nul? Ou un jeu un peu.
Les mecs, ils font des bons jeux, et en vrai, Thief Simulator, j'aurais envie qu'il soit jouable, tu vois, mais. Tu vois, il y a ce côté de dire, bah oui, bah finalement, on n'est que deux, on l'a quand même shippé, tu vois.
Ouais, mais regarde, Valheim, les mecs, ils sont deux. Et
ils sont cinq.
Est-ce que c'est. En fait, c'est des équipes où il y a des très bons game designers, mais par contre, ils ont des codeurs pourris.
Bah, je sais pas trop ça. Je pense que la maladie, et c'est une maladie mentale que j'ai aussi, c'est-à-dire que s'ils étaient 150 avec 10 millions de budget, ils essaieraient de faire un jeu encore au-dessus de leurs moyens. Tu vois.
C'est ça, ouais, c'est exactement ça. Jamais, parce que des jeux où ils sont 2, 5 et ils arrivent à sortir des jeux extraordinaires, il y en a beaucoup aussi. Juste, ils ont l'ambition de leurs moyens. Voilà, ils réussissent à adapter le développement du jeu aux moyens qu'ils ont. Et c'est pour ça qu'on a des Hollow Knight, des Celeste, des jeux formidables qui n'ont pas un peu demandé des développeurs de tunique.
Vu ce que disait Fibre, on a vraiment l'impression, les exemples que tu donnais, c'est que le game design est bon, les idées sont bonnes. Mais c'est juste l'exécution est pas mauvaise.
Juste, ils veulent faire ce qu'ils n'ont pas la capacité de faire.
Ouais, ça. En fait, moi je suis sensible aux idées de game design, mais je pense qu'il y a des gens qui adorent certains effets lumineux de certains jeux, tu vois, certaines ambiances, j'en sais rien. Mais ouais, il y a cette maladie de vouloir taper plus haut qu'on a les moyens. Mais je voudrais faire justement une remarque par rapport à Star Citizen, parce que Star Citizen, à mon avis...
C'est exactement ça.
Non, justement, je crois qu'ils ont les moyens de faire ce qu'ils veulent, simplement ils sont très mal organisés.
Non. Non.
C'est un
feature trap, le jeu.
L'impression qu'ils ont mis la prio sur des trucs qui ont...
Mais à chaque fois qu'ils ont une... qu'ils se disent, allez, let's go, on a le budget, t'as Chris Roberts qui arrive et qui dit, ouais, mais alors il faudrait remodéliser l'intégralité des portes qu'il y a dans l'intégralité du jeu parce que j'ai un nouvel effet que j'aimerais bien tester. Ah. Et en fait, ils se perdent dans des détails qui sont débilos alors que il y a des trous béants à côté et tu continues à passer à travers le plancher de l'ascenseur.
Alors que Starfield sort, quoi.
Ouais. Starfield qui, je le rappelle,
oui,
ne fera pas
exactement.
La
transition espace-planète.
Ouais, moi, je suis déçu, même si c'est ultra chiant.
Cela dit, dans Skyrim, il y avait également...
Pas de transition, oui, je sais.
Pas de transition avec les villes, mais maintenant elle y est, donc bon, ça arrivera tôt ou tard.
Et d'ailleurs, excuse-moi, mais tu prenais Skyrim comme fil conducteur pour... Enfin, comme point de comparaison par rapport à l'Eurojunk, je rappelle que Skyrim a été jouable au bout de 2 ans et demi quand même. Hein.
Ouais, parce mais comme la, quand même, oui, comme la difficulté.
Tu disais qu'il y avait quand même beaucoup plus. Le jeu était bien, enfin ça compensait.
Oui, mais est-ce que Skyrim.
Moi, ma première expérience de Skyrim, elle était. La première fois que j'ai joué à Skyrim, le 11 novembre 2011, ce jeu est fabuleux. Il est incontestablement incroyable. On peut pas dire que c'est de l'Eurojunk, quoi.
Parce que c'était ma question. Est-ce que c'était pas de l'Eurojunk pendant 2 ans?
On a un peu le même non, constat avec Cyberpunk aussi.
Mais mettre Cyberpunk dans l'Eurojunk, oui, c'est abusé.
Non, justement, c'est
un quadruple A.
Les bugs de Bethesda sont beaucoup exagérés parce que ce sont des bugs qui sont. Parce que ce sont des jeux qui font parler d'eux. Et je pense que c'est. Désolé, Chloé, l'effet Google et la presse qui
descend en
exergue. Ah, c'est pour toi.
Toujours notre faute.
Bah, un petit peu.
Genre, c'était pas les joueurs tout seuls qui faisaient tout un foin là-dessus sur Twitter.
Il y a beaucoup de gens
qui. Et des vidéos également pour avoir des vues et de la pub.
Exactement.
Oui, c'est vrai. Il serait temps de remettre l'église au milieu du village.
Exactement.
De Skyrim. Il y en a marre. Justement.
Bon, après, Figaro n'a jamais fait d'article sur Skyrim, ce qui est bien.
Ah, si, on a fait un test à la sortie.
Ah, bah, autant pour moi.
Eh oui.
Das Eurojunk, tu as déjà joué un jeu,
du coup, oui, tous mes jeux.
Lamborghini.
Tous mes jeux.
Tous les jeux les moins chers. En fait, je pense que c'est intimement lié. Quand t'as pas les moyens de sortir les 50 balles ou les 450 francs à l'époque et que tu te dis, tiens, je vais plutôt essayer ce jeu à 220 francs. Bon, bah, quelque part, c'est une pièce jetée en l'air. Et puis, tu vois, tu te dis, non, j'ai pas d'oseille pour acheter Street Fighter 2 sur Super NES. Mais je pense que Star Gladiator, c'est bien aussi.
Ça me fait penser aussi à une époque où, tu sais, les développeurs américains essayaient de faire un peu du jeu vidéo japonais, mais du coup, ils disaient, nous, on va faire mieux. Donc, ils mettaient la max dans les graphismes, dans les animations, les trucs comme ça, mais les game design des jeux étaient dramatiques. Et en fait, au bout de 3 niveaux, ton jeu, franchement, le jeu était nul.
Tu vois,
l'exemple, c'est les deux Aladdin, le Aladdin de Capcom et le Aladdin de la Mega Drive. C'est typiquement ça. Enfin, t'as l'impression que le jeu, il est.
Le Aladdin Mega Drive,
il est plus joli.
Meilleures animations.
Mais tu joues au jeu, c'est dramatique en fait.
Il est pas bien. Enfin, moi, j'ai un bon souvenir de Aladdin.
Non, mais lui, il va te parler d'input, lag, de machin.
Ah oui, non, mais même ne serait-ce que de hitbox, un truc basique.
La même chose avec le Mickey de la Mega Drive, qui est la Fusion, et le Magical Quest de la Super NES, qui était incroyable.
C'est un peu deux philosophies un peu différentes.
Bah oui, bah du coup, la même chose dans l'autre sens. Quand les Japonais essaient de faire des jeux en open world.
Plus récemment, maintenant, c'est exactement ça.
À part Elden Ring.
Babylon's
Fall, bien sûr. Bah ça, on peut.
Je sais pas, j'ai pas joué. Ça... Mais est-ce que c'est un échec à cause du jeu? Mais parce que moi, c'est juste un. Moi, j'ai pensé que c'était juste un jeu moyen qui nécessitait d'être en.
Mais ouais, je pense que c'est juste ça. Non, mais il y a quelques jeux, de Suda 51 ou des trucs comme ça qui essayaient de faire des trucs assez extraordinaires.
Ouais, j'avoue qu'il y a des jeux
et qui sont juste en dehors des ambitions qu'ils peuvent. Mais franchement,
moi, la question c'est, il y en a. Où le studio sait qu'il va faire de la merde depuis le départ et ils y vont quand même. Et il y en a d'autres où le studio vraiment pense légitimement qu'ils ont un bon jeu et où ils se rendent compte qu'une fois que le public l'a dans les mains, c'est pas le cas, tu vois.
Ça, on ne saura jamais.
Voilà, en fait, qu'est-ce qui préside à. Tu vois, est-ce que vraiment tu le dis en disant. Et c'est pour ça que je parlais des jeux à licence, parce que les jeux à licence dans notre jeunesse, c'était 100% ça. À part, tu vois, un GoldenEye de temps en temps qui sortait en disant « Ah ouais, on a fait des efforts », généralement, quand t'avais une licence, genre Tintin au Tibet sur Super NES,
c'est pas fou.
Vois. Voilà, il y avait plein de jeux, justement, plein de jeux Disney qui étaient pas ouf, sur PlayStation notamment, tu vois.
Voilà, n'hésitez pas à nous dire si vous eurojanquez aussi vous à l'infini. Aussi. Je suis toujours étonné de savoir qu'il y a une économie hein, quand même pour des jeux comme ça, même si je peux comprendre.
Mais une énorme économie. Aussi. Mais il y a même des. Tu vois, bah, j'ai parlé de Reason et j'ai des bons souvenirs de Reason. Reason, je ne vais pas vous définir ce que c'est parce que je pense que vous n'y avez jamais joué, mais il y a, bon. Y a des gens qui te diront moi, c'est mon jeu préféré, Reason. Alors, il y a des gens qui diront Alex, c'est mon jeu préféré. Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup.
Reason.
Reason.
Ah oui, Ryzen, le jeu de sortie de l'Xbox.
De l'Xbox.
Non, c'est Rise.
Rise. Oui,
Rise, c'est un très bon jeu. Enfin, c'est un jeu très polish. Ryzen. Oui.
Très polish au sens polonais ou polish au sens bien fini.
Rise était très polish, même si un peu court et
polonais,
un peu.
Polonais donc.
Okay. Mais non, il était très très bien fini.
Okay.
Mais Ryzen. Non, il était très étrange et beaucoup de gens n'ont pas joué plus de 10 minutes quoi.
Ah, nous allons marquer une première pause dans cette émission et nous allons de Rocco évidemment un pause classique de première partie d'émission. Daz,
ouais.
À quoi joues-tu en ce moment? Petit Rocco game à part Star Citizen.
Petit Rocco game à part Star Citizen que j'ai pas relancé depuis 167 ans. J'ai relancé Elite. Ah non, arrête, ok, j'arrête. Mais je l'ai vraiment relancé là depuis 6 mois, j'y avais pas joué. Je me suis fait stream snipe parce que j'étais en stream, donc voilà, c'était une.
Tu joues pas à des nouveaux jeux finalement?
Non, là j'ai lancé sur les conseils de Fibre Tigre, Forceur d'or, 1996-2022. J'ai lancé XCOM 2.
Ah bah oui.
Eh oui.
Et il a aimé.
Et j'ai bien aimé.
Bah oui, évidemment.
Je tenais à dire que je vous ai pas encore mis dans mon squad.
C'est vrai.
Et Chloé, mais toi t'es mort deux fois.
Ah.
L'âme je l'ai perdu, Lydia je l'ai perdu, j'ai perdu beaucoup de gens.
Ça c'est triste.
Parce que tu peux donner des noms. D'amis à tes personnages.
Donc XCOM ça prend sur
pour
toi.
L'attachement. Ouais bah ouais, du tour par tour tactical avec des fusils qui font pampan et des gilets pare-balles, moi je let's go.
C'est merveilleux, merveilleux. Ouais. Chloé.
Absolument à rien.
Oh,
oh la déconnexion.
Ah, donc c'est la fin du jeu vidéo, c'est ça?
Mais non,
c'est la fin de la hype, on s'ennuie.
Mais non, c'est pas la fin du jeu vidéo, c'est juste il y a des périodes dans l'année comme ça, bah voilà, je ne joue à rien parce qu'il y a rien qui m'intéresse, rien qui me touche particulièrement dans ce qui sort et
attends,
voilà
je sors
c'est ma petite
temps.
Mais c'est ma petite pause annuelle, voilà, là il y a rien, ça fait ça va faire 2 ou 3 mois.
Après je te suis sur les réseaux sociaux
oui.
Effectivement t'étais par Mons et par Vaux donc c'est un peu compliqué de
bon je suis partie en vacances une semaine
non. Chaque fois, t'étais dans un endroit différent
mais
du monde entier.
Mais t'as l'impression que ça dure des
mais
années.
Non,
mais
je suis partie une semaine et après, c'était un week-end à Berlin. Non, je suis partie qu'une semaine.
Ok, d'accord.
Mais non, c'est juste là, en ce moment, rien du tout. Et c'est pour ça, voilà, je tiens à le dire, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Pour tous ceux qui nous écoutent, ce n'est pas grave.
Et le backlog, jamais.
Non. J'avoue, en fait, toi, je me dis. Déjà, j'ai l'impression des fois de ne pas avoir assez de temps pour faire les jeux qui sortent. Ce n'est pas pour me replonger dans ceux que j'ai déjà faits. Ouais. Ou dans ce. Il y en a, en fait,
non,
je me dis juste,
il y en a
qui sont dans le backlog, je me dis, bon, bah, tant pis. Après, c'est juste une. Tu vois, c'est une question d'envie. En ce moment, j'ai pas envie de jouer.
Ouais, let's go. Cette réponse me convient parfaitement. Fibre.
J'ai deux recommandations et une anti-recommandation.
Oh là là.
Donc, première recommandation, c'est j'ai vu ma femme le faire en entier avec la bonne fin, Tunique. Mais vous en avez peut-être parlé de Tunique?
Non. Ah putain,
ouais,
je l'ai pas fini.
Ouais, ouais.
Ok. Donc, très très bon jeu, Tunique. Et il mérite qu'on. Enfin, il mérite que vous installiez, vous preniez du temps et vous essayez de comprendre c'est quoi le jeu.
Franchement, parce le coup du manuel utilisateur que tu débloques là avec les pages et tout, c'est trop mignon.
En fait, en gros, ça fait partie des jeux dont il faut comprendre les véritables règles, donc c'est très intéressant. Sinon, dans le Game Pass, alors c'est dans le Game Pass Tunique, et dans le Gold, donc le Game Pass, il y avait un jeu Xbox 360 offert qui s'appelle Haven Colony, que j'ai beaucoup aimé. C'est un SimCity du futur sur une planète alien. Et surtout, il est extrêmement simple. Donc, comme moi, vous avez passé une journée à travailler toute la journée, vous êtes crevé le soir. Voilà, c'est un petit Haven Colony, vous avez une musique New Age planante, Robert Miles.
Wow.
Vous êtes sur une planète, vous posez des trucs et vous perdez jamais, et c'est trop bien, je suis trop content.
Crave, bof, voilà. c'est un peu dumb down.
Et j'ai une anti-recommandation, j'ai joué hier à Le Club des 5 et le Trésor de Lille. C'est un point and click de Ravensburger de 2000.
Oh là 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 là
là.
Parce que j'ai une émission qui s'appelle Pointer et cliquer où je fais tous les point and click. Et je peux vous dire que c'est incroyable qu'une licence aussi forte que Le Club des 5 ait fait un jeu comme ça. On n'est même pas dans l'Eurojunk, on est dans le foutage de gueule et c'était incroyable. Rien n'allait.
Ça, c'est normal.
Rien n'allait, mais.
C'est une licence littéraire. Donc,
pour vous dire à quel point rien ne va, c'est un point and click où quand on clique sur un objet, le héros ne dit rien. Tu vois, genre, tu cliques sur le radiateur, il y a marqué radiateur, il dit pas c'est un radiateur ou j'ai rien à faire, il ne réagit pas. Alors, c'est tout à fait. Hiberso était fantastique.
Moi, je suis en train de toucher un radiateur, j'ai pas besoin de dire quelque chose.
Ouais, non, alors ça se trouve, ils nous ont brain et ils ont 50 ans d'avance, tu vois, mais vraiment, c'était ultra frustrant, tu vois. Je pouvais pas rentrer dans un endroit, il me disait pas pourquoi, il me disait pas la porte est fermée ou. Non, il fallait que je devine, tu vois. Et c'était c'est un jeu pour les plus de 7 ans, et je crois que si vous avez 7 ans, ne jouez pas à ce jeu, quoi. Voilà, parce que j'avais 44, j'ai été bloqué à plein de façons, voilà.
Après 7 ans en 2000, ça veut dire que t'en as 29 aujourd'hui.
Alors, sachez que ce jeu, le Club des 5 et le mystère de l'île au trésor, c'est ça, voilà. Non, le secret de l'île au trésor est un jeu, déjà, c'est des images digitalisées, donc mais par contre, des personnages animés en dessin animé, donc c'est laid. Et il y a eu quand même 9 suites, comme quoi.
Oh ouais.
Voilà. Et c'est voicé par Brigitte Lecordier, que je salue.
Magnifique. Magnifique. Voilà. On salue Brigitte. Elle nous a rendu un hommage magnifique dans cette émission. Eh bien, écoute, magnifique fibre. Hein. On a impatience que tu testes un autre point and click, évidemment, de chez Ravensburg, bien entendu. On va passer à la prochaine chronique et c'est avec Chloé qui nous parlait de curation.
Oui.
On cure ? Curation ? Oh là !
Ouais, curation. On va prendre un mot aujourd'hui. Non, mais en fait, est-ce que vous connaissez cette sensation quand voilà, vous êtes face à Netflix et que malgré la profondeur incroyable du catalogue, vous vous dites...
Il n'y a rien.
C'est pareil pour le Game Pass. Hein.
Pareil pour le Game Pass. Sur YouTube, vous vous dites, bof, il n'y a rien.
Oui, clair.
Finalement, on va peut-être plutôt aller se coucher, hein, parce que franchement, rien. Alors que vous avez quand même accès à une gigantesque librairie de contenu à laquelle vous n'auriez jamais rêvé accéder quand vous étiez ado. Enfin, c'est juste absolument incroyable, tout ce choix, toutes ces possibilités devant vous. Eh ben non. Cette sensation de vide face au trop-plein, pardon, je l'ai eue face au Summer Game Fest.
Oh.
Bah, y en avait beaucoup. Hein.
Qu'est-ce que vous avez retenu du Summer Game Fest ?
Starfield.
Moi, c'est simple.
Forza.
Rien.
Forza.
Absolument rien.
Non, Chloé, mais parce que t'étais dans ta période déconnectée.
Non. Alors qu'on sait quand même que le mois de juin, normalement, dans le jeu vidéo, c'est Noël.
C'est vrai.
C'est là où tous les éditeurs font leurs grosses annonces, c'est là où on est scotché face aux conférences, c'est là où Internet s'enflamme. On adore cette période de l'année. Mais ça fait maintenant 3 ans que nous faisons face à un problème qui est lié à l'arrêt de l'E3. Il y a 1000 fois trop de conférences lors de la dénommée Summer Game Fest, ou le non-E3, comme on l'a baptisé cette année. Et chaque conférence, surtout si elle n'est pas faite par un gros acteur du secteur, comprend beaucoup, mais alors beaucoup trop de jeux.
Ah bleu, hein.
Alors, je suis chanceuse parce que j'étais pas dans l'obligation professionnelle de suivre la dizaine de conférences qui ont lieu durant une semaine. Donc, j'ai une grosse pensée, voilà, pour tous ceux qui ont dû le faire.
Tenez l'âme aussi.
Voilà, l'âme, on pense à toi. Gotose, on pense à toi. Enfin, voilà...
J'ai à moitié le Covid, j'ai eu de la chance. Mais j'ai pas évité la fin. Et surtout après la semaine et demie de débrief intense dans la quotidienne, qui était pénible.
Mon Dieu. Eh ben moi, en fait, j'ai eu le luxe de ne me concentrer que sur ce qui m'intéressait vraiment, personnellement. Donc, grosso modo, bon, les grosses conférences, hein, donc la conférence d'ouverture, la conf Sony, la conf Xbox, évidemment la conf Final Fantasy VII. Évidemment. J'avais franchement pas le temps pour suivre les autres, j'avais d'autres choses à faire.
Le PC Gaming Show quand même, non ? Un peu de respect ? Non ? Ok, bravo.
Non,
bravo,
absolument. Tu sais, moi, je n'ai pas basculé, hein, contrairement
beau
à
message,
Fibre.
Beau message de tolérance.
Je n'ai pas basculé dans l'autre camp. Non, en fait, j'avais pas le temps. Et surtout, en fait, je comptais sur Internet pour faire le tri pour moi. Internet, notamment les réseaux sociaux. Parce que voilà, on se dit, bah, s'il y a des choses qui ont été vraiment extraordinaires, de toute façon, demain matin, quand je vais me lever sur Twitter, il y aura plein de trucs.
Ma pauvre.
Voilà. Et ben vous savez quoi, ça s'est pas du tout passé comme ça.
Claire.
Mon fil Twitter, il est resté amorphe.
Ouais.
Comme si rien, mais absolument rien, n'avait surnagé de ce déluge d'annonces. Et j'ai halluciné en fait après coup, parce que sur ces conférences que je n'ai pas suivies, que par exemple il y avait eu 100 jeux au Wholesome Games. J'ai dit mais qu'est-ce qui se passe quoi ? Et sur ces 100 jeux, bah, il semblerait qu'il y en ait aucun qui ait marqué les esprits. Et là on se dit il y a quand même un sacré problème. Et vous allez me dire que j'ai pas fait l'effort d'aller chercher l'info.
J'allais exactement dire ça.
Eh ben si, si monsieur Daz, je suis allée sur Gamekult par exemple, pour voir un peu ce qui ressortait, juste sur la homepage, sur les news. J'ai regardé leur récap quotidien, qui faisait quand même 30 à 40 minutes. Et j'ai bien senti, en fait, en écoutant ces récaps, que mes confrères avaient sévèrement souffert face à un tsunami de trailers où le niveau d'OSEF était quand même sacrément élevé. C'est pour ça que je le dis, vive la curation. Le problème, à mon sens, de ce non-E3, c'est qu'il y avait trop de jeux présentés. Déjà parce qu'il y avait trop de conférences, mais ça, je pense malheureusement, on ne peut plus rien y faire. Mais surtout, parce qu'il n'y avait pas assez de tri en amont dans les jeux présentés. Des confs avec de 40 à 100 jeux, est-ce qu'on est vraiment sérieux deux secondes?
Ouais, mais c'était pas... Enfin, toutes les confs étaient particulières comme ça, quand même.
Pas toutes, mais quand même beaucoup trop. En tant que spectatrice, je préfère mille fois une conférence avec cinq fois moins de jeux, mais des jeux de qualité, enfin des jeux de grande qualité, des jeux qui vont me marquer. Un peu comme un excellent Nintendo Direct, où chaque trailer, c'est une baffe. La sensation renvoyée par la plupart des conférences, c'est que les organisateurs ont pris tous les trailers que les studios leur ont envoyés et il n'y a eu aucune réflexion derrière, critique éditoriale, juste on prend, on balance. C'est évidemment faux, parce que je pense qu'en fait, ils en ont reçu peut-être 100 fois plus que ce qu'on a vu.
C'est vrai.
Mais c'est vraiment l'image que ça renvoie. C'est genre, bon, allez, on a pris, on balance, et puis voilà. Et je pense que cette avalanche d'annonces, c'est bon pour personne. Alors, c'est pas bon pour le spectateur, qui est assommé par ce qu'il est en train de voir et il ne retient plus rien. C'est pas bon pour les médias, qui pètent un câble, hein, je pense qu'on l'a vu au cours de ces 10 derniers jours, et qui n'ont pas assez de bras pour trier, voilà, faire le tri entre ce qu'il faut retenir et ce qu'il ne faut pas retenir. Et à mon avis, c'est pas bon non plus pour les créateurs, dont les annonces sont totalement noyées dans le flot. Et c'est ce que je disais en début de chronique, je ne retiens rien de ce Summer Game Fest. Alors j'en ai un petit peu discuté avec les professionnels de la profession, et ce qu'on me répond en substance, c'est qu'une micro-visibilité lors de ce type de conférence, c'est mieux que rien. L'idée, surtout pour les devs indés, mais pas que, c'est que voilà, t'apparais sur une conférence, peut-être que tu vas retenir l'attention de quelqu'un, peut-être que cette personne va te mettre dans sa wishlist Steam, ce qui permettra d'être favorisé par l'algorithme de Steam et d'être davantage mise en avant. Même si apparemment, donc Fib, on pourra en parler après, ça marche apparemment plus forcément comme ça. Enfin, que la wishlist n'est plus forcément aussi magique qu'elle ne...
Si, la wishlist, elle est... On ne reviendra plus jamais en 2008, tu vois, mais la wishlist, c'est un début, quoi.
Ouais, c'est un début, et donc voilà, on se dit, il faut, c'est pas grave, même si j'apparais 10 secondes dans cette conférence d'une heure, au moins peut-être qu'on va me mettre en wishlist et ça va être bien. Et je comprends tout à fait hein, l'enjeu de visibilité, de notoriété, mais ce dont on parle, c'est de récupérer une part microscopique sur un gâteau dont la taille n'a absolument pas changé, et ce gâteau, c'est l'attention des joueurs, qui n'est pas extensible à l'infini non plus. Et du coup, je me demande, est-ce qu'on ne gagnerait pas à revenir à la formule de l'E3 d'avant, avec uniquement des conférences de gros éditeurs, bien travaillées, avec des jeux intéressants, et surtout en nombre raisonnable? Alors là, j'entends déjà les « oui, mais ce système exclut les petits,
et les
coches médias, les alternatifs,
c'est
une honte ». Alors oui, j'entends tout à fait cette critique, mais est-ce que se retrouver à 100 dans une conférence Warsaw Games, est-ce que c'est vraiment la solution? Personnellement, je ne pense pas. D'ailleurs, je vous dirais bien que selon moi, le problème, en fait, de base, c'est qu'on crée trop de jeux vidéo par rapport à ce que le marché peut absorber.
Ah, ça.
Mais ça, c'est un débat que je garde pour un autre quête latéral.
Ah, merci, évidemment, Chloé.
Est-ce que ça serait pas un syndrome d'enfant gâté? Parce que quand tous ils s'envolaient pour Los Angeles, hein, pour se faire buter la gueule à coups de conférences behind closed doors pendant 10 jours, on les entendait moins. Hein. Là, maintenant que. L'homme du peuple, hein, le bon père de famille comme moi par exemple, a accès exactement au même contenu. Là, je sens que les journalistes commencent un peu à couiner.
Le hein. peuple, il revient de Los Angeles aussi, donc il la ramène pas trop.
Oui, d'accord, mais pas pour le 3. Non, mais voilà, je veux dire, en fait, pour des gens comme moi,
oui.
qui du coup ne suivaient pas le 3 de très près, parce qu'il y a eu une période où en fait, c'était pas encore couvert en stream, parce que ça n'existait pas. Et c'était que des journalistes de presse écrite et web qui y allaient. Et moi, je passais à côté de l'événement, en fait. Mm-hmm. Voilà, parce que là, en fait, le fait de se dire ah, ce soir, il y a la conf Bethesda. Trop cool. Tu vois, j'étais chez moi, il y a des potes qui étaient dans le secteur. Ils sont venus, on a maté la conf ensemble, on a rigolé et tout. Je me rappelle de deux jeux.
Ouais, mais c'est pas ça le problème. Enfin, tu vois, que les grosses conférences soient streamées, ça fait quoi? Ça va faire 10 ans que c'est le cas, même ouais, plus que ça. Ça. Enfin,
non.
Ah, si, je me souviens quand ils ont présenté pour la première fois Final Fantasy XV. J'étais étudiante en Angleterre, donc c'était en 2004 ou 2005. Ah non, mais c'est depuis qu'il y a YouTube, il y a les conférences. Ils ont streamé. Hein.
D'accord. Ouais, ouais. Okay. Moi, je pensais que c'était un truc bien relativement aussi. Récent.
Ouais. Non, c'est vieux. C'est vraiment.
Non, mais là, le
Wholesome
Game.
C'est le nombre. C'est le
Wholesome Game à 100 jeux. C'était la première fois qu'ils faisaient un truc aussi fat.
Et surtout, en fait, le problème, c'est que s'il y avait juste les 100 jeux, mais ces jeux sont remontrés dans d'autres conférences après. Donc, en fait, tu vois les jeux plusieurs fois et tu vois parfois les trailers. Exactement les mêmes plusieurs fois sans ajout supplémentaire dans une autre conférence derrière, c'est un peu dommage. L'avantage de l'E3, c'est que de toute façon, sur un salon, il n'y a pas une place infinie. Donc tu ne peux pas caser un nombre de jeux infini. Tu ne peux pas caser 650 millions de jeux sur un salon. Et tu as les grands jeux qui vont ressortir, vont être testés. Il va y avoir aussi un filet, on voit le jeu en conf. Il y a eu le test du jeu, il y a le retour derrière en hands-off, puis il y a les interviews qui en découlent. Et en fait, tu as quand même un long moment de communication sur plein de jeux. Et
oui,
si tu t'intéresses, c'est impossible.
Et là, je rejoins le point qu'elle évoquait.
Un gros petit budget, parce que les développeurs sont là-bas. Et
oui, mais en fait, pour aller à
l'E3,
l'E3, c'est un budget faramineux. Donc en fait, les petits studios, ils ne pouvaient pas se le permettre. Donc...
Non, mais en fait,
il y avait l'E3 et puis après, tu avais la Gamescom.
Que ce soit gros ou petit budget, franchement, l'exposition, elle est ridicule. Et si t'as pas réussi à attirer l'œil avec une direction artistique ou un trailer parfois stylé, il y en a qui ont réussi.
Sable, je pense à toi.
Exactement. Et quel le jeu là où tu es dans le livre et que tu sors.
Comment il s'appelle
par tout le monde.
Tout le monde a dit waouh, incroyable, le jeu de l'année et tout. Nanana, je sais même pas comment il s'appelle.
C'est un trailer bien monté, bonne direction artistique, etc. Les confs PlayStation, les confs Xbox ont été aussi. Un succès quand même, mais c'est vrai que l'avalanche de jeux fait mal, et le Summer Game Fest, donc l'événement de Geoff Keighley à proprement parler, lui était dramatique, mais genre l'ouverture c'était dramatique vraiment, mais de toute façon c'est jamais bien
en tant que vous professionnel, alors Fibre il est de l'autre côté, lui c'est l'artisan, mais
moi je peux en parler
en tant que vous de la centrale d'achat là, qu'est-ce que vous attendez en fait comme il faut un retour à l'E3 en centre de
fermée.
Oui. On va te demander ton avis après.
Je pense qu'il faut garder quand même au moins la plupart des gros éditeurs avec une visibilité, que Activision Blizzard est quand même son truc, que Electronic Arts est son truc, que Ubisoft est son truc. Si t'as pas au moins un minimum ça, t'as un taux d'OSEF qui est génial. Vous imaginez, on a pas tout ça, on a la moitié d'un PlayStation et on a quelques conférences à droite, à gauche. Capcom s'en est très bien sorti. Finalement, Capcom s'en est vachement bien sorti et Square Enix s'en sont bien sortis là-dedans. Mais il faut trier, il faut sélectionner. Sinon, c'est la noyade. Fibre.
Il n'y a pas trop de jeux. Mais ça, pour te donner un exemple, beaucoup de gens disent il y a trop de livres à la rentrée littéraire française.
Oui, c'est vrai.
Donc en fait, simplement, on arrive à la saturation du marché toujours. Mais il y a un truc par rapport à la différence entre la rentrée française et les jeux vidéo. Les jeux vidéo, c'est un marché mondial. Et encore, on va dire plutôt à cause de la défiance des États-Unis, on n'a pas par exemple des jeux iraniens, mais... Peu importe. Donc en fait, c'est un marché mondial et on a le monde entier qui nous offre ces jeux vidéo. Cette situation, elle est comme ça. Et je pense qu'il y a le problème, c'est que le Wholesome Game, c'est complètement con, ok? Parce que ça veut rien dire. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut faire un. Je vais parler de quelque chose d'autre truc et je reviens sur ma solution ensuite.
Okay.
Le problème, en fait, ce qui faisait peur dans l'E3, et pourquoi on s'est réjoui de la fin de l'E3, mais on n'est pas très content qu'il y ait les Game Awards qui arrivent, c'est qu'on ne veut pas que tel un Z-Event, il y ait une sorte de monopole de l'information.
Oula, qu'est-ce que tu es en train de raconter là?
On veut pas qu'il y ait...
le moment du drift.
On ne voudrait pas qu'il y ait un monopole d'une chose essentielle à l'industrie.
Comme le caritatif, pour le parallèle avec le Z-Event, le monopole?
Il n'y a pas de monopole, mais en gros, il y a un événement qui est tellement grand que tout autre événement à côté, il est complètement éclipsé.
Ah oui, d'accord.
Tu comprends?
C'est ça.
Donc ça veut dire que tout le monde doit être à cet événement, mais si un jour, cet événement, il a un problème, quel qu'il soit, c'est toute l'industrie qui bascule. Et il se trouve que l'E3, c'est un peu ça finalement. Ils ont fait des conneries. Il y a un autre qui a pris sa place. Mais il faudrait qu'il y ait comme dans une sorte d'ONU du jeu vidéo, une sorte d'association, une sorte d'ANSI. On a fait ça pour les sites web. On s'est dit, oula, il y a peut-être un problème. Il faudrait qu'il y ait
un syndicat du jeu vidéo, par exemple, tu veux dire ?
Une entité neutre, en tout cas, qui dirait, OK, on va parler de tous les jeux vidéo du monde entier maintenant. Et il n'y a pas derrière un intérêt privé. C'est impossible à imaginer, mais c'est ce qu'il devrait y avoir.
Mais c'est ce qui se passe, en fait, là.
Et aujourd'hui, il y a une sorte de compétition sur le jeu. Oui, c'est ce qui se passe plus ou moins. Et le problème de faire le Wholesome Game, c'est pas une niche, les jeux Wholesome. Par contre, les jeux tactiques au tour par tour, c'est une niche. Les RTS, c'est une niche. Les FPS, c'est une niche. Et si demain, il y a le FPS Fest, tous les gens qui aiment les FPS vont le regarder et tous les gens qui n'aiment pas les FPS ne vont pas le regarder. Et là, en fait, on aura des trucs qualitatifs.
Par catégorie, tu veux dire.
Alors, moi, je n'aime pas du tout les catégories. Je les ai dénoncées plein de fois.
Évidemment.
Je les ai dénoncées plein de fois, mais aussi. Non, mais aussi.
C'est en contradiction permanente.
Aussi terrible qu'elle soit. Elles ont c'est comme le capitalisme, personne ne l'aime, mais elles nous apportent les jeux vidéo, donc il faut bien faire avec. Donc les catégories sont contre-productives. Pour les catégories sont hyper contre-productives.
Il a fait une chronique là-dessus quand même.
Oui, bien sûr. Les catégories sont hyper contre-productives pour la création, mais néanmoins elles sont utiles pour la curation. Et en fait, il va arriver aussi à ce point-là parce que il y a eu aussi un rejet du journaliste avec le Gamergate, c'est-à-dire qu'on a dit les journalistes sont incompétents. On ne veut pas avoir l'avis des journalistes parce que nous, les gamers, on est plus forts qu'eux et au moins nous, on n'est pas corrompus. Mais en fait, le journaliste et aussi le critique. Non, mais c'était ça le fond du Gamergate.
Oui, en fait,
le critique de jeux vidéo qui n'existe pas forcément comme il y a le critique littéraire, il apporte toute sa puissance là. À quoi ça sert un critique littéraire? Pourquoi on a envie de savoir qu'un livre est bon par rapport à un livre mauvais? C'est que simplement, comme le disait Chloé, on manque de temps. Et je peux pas perdre mon temps à lire un livre nul, mais je peux pas le savoir si je l'ai pas lu. Donc heureusement, il y a des critiques littéraires. Mmh. Et aujourd'hui, il faudrait la curation, il faut même aller plus loin, il faudrait qu'il y ait des véritables critiques du jeu vidéo qui vous disent, regardez au moins ce trailer, vous ne perdrez pas votre temps dessus, c'est du temps gagné. Mais ça, c'est pas métier.
Sur les sites, ça n'existe pas déjà, ça, ça s'appelle un site de jeux vidéo.
Mais quand on a une Chloé dont c'est le métier, qui est spécialiste et qui dit « moi je retiens rien », alors peut-être qu'en fait il n'y avait rien à retenir et tu as fait hyper bien ton travail. Mais en fait, il y a peut-être effectivement une sorte de discipline.
Chloé,
tu es accusé directement de mal faire ton travail.
Non, pas du tout.
Non.
Mais le métier n'existe pas.
C'est exactement ce que tu viens de dire.
En fait, je vois ce que tu veux dire, Fib. En fait, je repense du coup à l'époque où le 3, donc il n'y avait pas de conférence qui était streamée, donc années 90, années 2000. Comment ça se passait pour les journalistes? Alors moi, je n'ai pas connu cette époque-là, mais de ce qu'on m'a raconté, c'est que bah voilà, t'arrivais sur le salon, il y avait plein de jeux, t'allais les voir, s'il y avait un truc qui te tapait dans l'œil, dans les allées, bon bah t'y allais, t'essayais. Et ensuite, une fois que tu revenais à Paris, c'est là que ton travail de curation commençait, c'est-à-dire que tu disais, bah en fait, on va mettre en avant dans le magazine ce qu'on juge, ce qu'on a jugé intéressant. Ouais. Et en fait, on enlève voilà, tout ce qui était un peu nul, qui ne mérite pas. Alors, on va faire juste un petit encart de rien du tout, mais c'est pas ça. Et en fait, c'est le travail du coup de la presse et des médias de faire la sélection. De dire, bon, bah, ça, on estime que ça mérite votre intérêt, donc on va le mettre en avant. On va écrire beaucoup dessus. Ça, par contre, non, c'est nul, donc on n'en parle pas. Et là, ce que j'entendais, notamment des médias spécialisés, c'est qu'avec ces conférences tunnels, en fait, c'est très difficile de faire ce travail. Parce que, bah, en plus, vu qu'elles sont retransmises en direct par ces médias, donc ils sont obligés de les commenter.
Et avec une exclusivité? Parce qu'on ne les a pas pu les voir avant, tu vois.
Ouais.
Oui, c'est vrai.
Et du coup, c'est commenté en direct. Donc, ils disent, bah, en fait, on est obligé de tout regarder. Et ensuite, on va pouvoir dire, ouais, en fait, donc ça, c'était intéressant. Mais ça arrive un peu trop tard parce qu'en fait, les internautes, en fait, ils ont vu exactement la même conférence que toi.
Et ils s'en foutent.
Et ils s'en foutent. Voilà. Parce qu'après, on pourrait aussi se dire, bah, je ne sais pas, une sorte de système, même si je ne vois pas comment il pourrait être mis en place, où les médias voient avant les conférences. Oui, ensuite, voilà, non, c'est juste, on met juste en avant.
Moi, je trouve ça ultra cool de découvrir en même temps que moi justement je regarde la conf pardon Zoom fait des signes, je regarde la conf en live vraiment sur la page Twitch ou la page YouTube de l'éditeur ou machin, ouais. Et après je me pluguais sur les débriefs de l'âme qui faisait avec l'ENUM, ouais. Et GK, ouais. Justement pour avoir les avis
mais tu sentais pas qu'ils étaient juste désespérés,
oui mais c'est GK dont on parle. Tu sais que ce sont des gros blasés du jeu vidéo.
Il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est GK Cult, c'est par exemple la note 6. On parle beaucoup du 7, mais en fait, le 6, dans Gamecult, ça veut dire ce jeu ne vous plaira que si vous aimez le genre. Mmh. Et je trouve c'est hyper utile, parce que vraiment, le 6, il était bien attribué. C'est pas, en fait, moi, je ne dis pas, vous ne faites pas votre travail, ou il faut changer l'ordre des conférences.
C'est ce que tu disais, quand
même. Non, il faut, quitte à repenser, comme le suppose Chloé, les présentations des Summer Game Fest, ou je ne sais pas quoi, parmi les choses, moi, je préconise déjà une sectorisation par genre.
Non, mais ça, c'est une idée.
Et également, la création... Enfin, la curation, je la dis comme toi, mais la curation, elle vient pas, à mon avis, elle ne viendra jamais des organisateurs qui, eux, vont mettre un max de choses parce qu'ils vont se sentir coupables ou ils vont avoir des intérêts. Ou je crois que même, peut-être c'est payant. Peut-être qu'en fait, tu payes 10 000 boules et ton trailer est là-dedans, tu vois.
J'ai l'idée après.
Je sais pas comment ça fonctionne, mais voilà, il y a des...
J'ai demandé, non, il n'y a pas de...
Donc, il y a eu une curation et ils se sont dit, on va mettre 100 jeux en une heure, c'est ça?
Ouais.
C'était pas une meilleure bonne décision.
Non, mais encore une fois,
on parle que d'un truc.
Oui, après, il y en a eu d'autres, je sais plus lequel, c'était genre, il y avait 40 jeux, pareil.
Il y avait le PC Gaming Show, mais en fait, non, je
sais pas. Après, il faut aussi le comparer avec l'année dernière. L'année dernière, parce qu'on n'était pas spandé. Oui, mais justement, les gens, ils ont tous finalisé. Là, on s'est tapé finalement 3 ans de jeu d'un
coup. Non, mais il y a un truc. Voilà. En fait, excuse-moi, ouais, juste vas-y. Le point, plutôt que de faire des catégories, machin, et de faire des FPS Fest dont tout le monde se contrebranle, en fait, si on se mettait tous d'accord pour dire on ne montre pas de jeux qui ne sortent pas dans les prochains 18 mois, ça éviterait
c'est
d'avoir
exactement ce qu'a fait Xbox.
Non, parce que j'ai vu des trucs, le trailer super, tu fais ah trop bien, et après 2024, tu fais waouh les gars.
Il y a deux trucs comme ça. Il y a eu deux.
Mais
deux
sinon,
jeux.
C'est le reste, sinon, c'était tout sort tout dans, les 12 dans les 12 mois.
Dans les 12 mois
c'est la règle, c'est tout sort dans les 12 mois.
Tout dans les 12 mois et tout dans le Game Pass.
Parce que sur le PC Gaming Show, il y avait pas mal de fin 2023.
Oui.
Non, Starfield, il sort pas dans 12 mois, ça va pas ou quoi?
Mais bien sûr que si. Si,
dans moins de 12 mois. C'est été 2023, je crois.
Oui, dans moins de 12 mois, printemps
ouais.
même.
Ouais, printemps 2023.
Ah ouais, bon, après, ça va être repoussé.
Bon, vous allez être repoussé.
C'était leur truc. C'est dire, on vous montre des jeux qui arrivent dans les 12 mois.
On va vraiment y jouer.
Et même, ils les ont répartis ensuite après dans une infographie. Les jeux qui sortent dans 6 mois. Ok, les jeux qui sortent dans 6 mois d'après.
Donc, tu as
le résumé de tous les jeux. Et t'avais 50 jeux en tout.
Tout le monde devrait faire ça, en fait. Ouais. Pour éviter d'avoir un trailer qui te met l'eau à la bouche avec écrit 2024 dessus, tu feras, ah les gars,
ça je suis assez d'accord. Mmh. On s'éloigne un peu du sujet.
Mais du coup, Fibre, j'aimerais avoir ton avis. Voilà, quand tu crées des jeux vidéo, est-ce que pour toi, est-ce que voilà, ça t'aurait intéressé que tes genre que Outer par exemple soit présent dans ce type d'événement, sachant qu'il sera totalement noyé.
Ouais, j'avoue.
Sous des genre 350 jeux présentés en une semaine. Ouais.
Moi, j'ai une. À titre personnel, j'ai un proverbe qui est chaque lecteur compte. Genre, si je dois faire un copier-coller de merde qui me prend 30 secondes ou une minute pour que j'ai un lecteur supplémentaire sur Wattpad, je le fais. C'est comme ça. Non, mais en vrai. Donc, non, mais c'est ce que. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça que ça marche.
Marche à l'impression.
Les petits ruisseaux font les grandes rivières. Après, moi.
La marée monte pour tous les bateaux.
Après, je connaissant le monde, malheureusement. Du jeu vidéo, rappelons que c'est un monde de pay to win, pay to earn, NFT pour enfants, etc. En vrai, je pense que pour avoir son trailer, il fallait payer, ils ont engrangé un max, c'est tout, quoi. C'est la vie. C'est comme ça. Je veux dire, il y a beaucoup de prix, par exemple, des prix. Non, je vais rien dire, je vais pas dire les trucs. Voilà. Mais en gros, c'est comme ça que ça fonctionne.
Je veux pas se faire cancel ou collab, je comprends.
Je pense que je vais demander à Zud d'enlever des trucs.
Fibre à demi-mot, évidemment, hein, qui nous avoue des choses de la mafia du jeu vidéo.
Non, mais
évidemment.
Le jeu vidéo, on sait ce que c'est. On sait ce que c'est, ce truc, tu vois, cette industrie.
Moi,
on
je sait sais, que moi, je on sais, sais pas, c'est... Fibre, explique-moi ce que c'est.
Non, mais on est d'accord, c'est vraiment. Il y a des choses merveilleuses, il y a une amitié professionnelle extraordinaire avec les gens, mais il y a des choses plus. Il y a du dark, il y a des bails sombres.
Il y a
voilà.
des bails sombres dans le jeu vidéo.
Voilà.
C'est une industrie.
Et surtout aux États-Unis.
C'est les Américains.
Les bons Samaritains, les États-Uniens qui vont faire une curation, bien entendu. Moi, je n'y crois pas une seule seconde.
Ouais. Non, juste, peut-être pour clore la discussion. On parlait un peu la nature a horreur du vide, l'E3 a disparu, boum, il y a à la place, t'as 25 conférences qui ont popé sur la semaine habituelle de l'E3. La question que je me pose, c'est est-ce qu'on est vraiment obligé du coup de se dire il y a une semaine sanctuarisée du jeu vidéo, voilà, c'est la deuxième ou troisième, c'est la première ou deuxième semaine de juin et c'est comme ça, ou est-ce qu'il faudrait pas se dire ok, cette semaine sanctuarisée, comme à l'époque de l'E3, grosso modo, c'est pour les AAA. Et pour les autres types de jeux, les AA, les indés, etc., peut-être une ailleurs dans l'année. Et du coup, ils auraient une vraie exposition parce que déjà, ils ne seraient pas noyés au milieu des Starfield et autres Final Fantasy 25.
Donc, oui, ça serait vraiment sortir du carcan classique à l'ancienne E3. Mmh.
Et bah, je veux dire, l'E3, ça a toujours été.
Moi, je serais pour un Eurovision du jeu vidéo, voilà, je l'ai dit.
Tu veux dire un Eurogame Fest?
Non, un Eurovision, c'est-à-dire vraiment, on fait des finales chez nous, du meilleur trailer, et on le présente, genre
avec que des Euros.
À l'Eurovision, voilà, avec, dans une cérémonie, genre Eurovision, et on vire les États-Unis, il n'y a que nous et l'Australie.
Bah, l'Eurogame Fest, très bien.
Eurogame Fest.
Mais donc, non, mais c'est une bonne idée, en fait, de juste décorréler les événements et de glisser sur.
Parce qu'après, le Wholesome, en fait, il y en a plusieurs dans l'année.
Oui.
Et là, je me dis, est-ce que c'est vraiment la peine d'en faire un en plus pour le 3,
c'est pas bête. Pas bête du tout. Voilà, en tout cas, avez-vous passé un bon moment là-dessus? Tu retiens quand même un jeu, pas
Starfield pour.
Starfield, petit jeu.
Allez, je vais dire Forza parce qu'il a l'air très chouette.
Forza, petit jeu.
Mais Starfield quand même.
Si, le jeu de qui était présenté par Microsoft, le jeu qui le truc moyenâgeux en 2D qui est fait par Obsidian.
Ben Pillar of Eternity 3.
Non, ça commence par un R et en fait on dirait
Pillar of Eternity peut-être.
Non, ça ressemble à une illustration moyenâgeuse.
Ah oui, la tapisserie de Bayeux.
Ouais, exactement.
Ah, ça avait l'air chelou, ouais.
Ça m'a tapé dans l'œil mais tout de suite. Je dis OK, ça je veux et je sais plus comment ça s'appelle.
Ouais, moi non plus, mais c'est un nom en plus qui est bizarre.
Oui, c'est pour ça que je le retiens pas. Ouais. Mais c'est pas la
première fois qu'on a ce type de direction artistique, il faut qu'il y ait un bon jeu derrière. Ouais, je suis vraiment de mauvaise humeur aujourd'hui. Je déteste.
Non, franchement. Franchement, ça va. Moi, je retiens Street Fighter 6 quand même, formidable.
Ouais, NFT, j'adore.
Bah oui, mais il n'y a pas d'NFT, qu'est-ce que tu racontes?
Il n'y a pas de NFT.
Mais non.
Ah non, c'est leur logo qui ressemble à un NFT.
Oui.
Pétiment.
Pentiment.
Pentiment. Pentiment. Ouais. Pentiment. Pentiment, moi, ça, là, comme ça me plaît.
Okay. Merci. Street Fighter 6, c'est tout, toi, Street Fighter 6, quoi.
Bah, si tu me donnes de retenir un jeu de cette Nono 3, ouais, Street Fighter 6.
Ok.
Bien entendu. On va marquer une seconde pause. Et on va parler un tout petit peu des offres PlayStation Plus qui arrivent aujourd'hui c'est même. Alors, nous enregistrons ce podcast formidable. Nouvelles offres, trois offres hein, essentielles de luxe, c'est ça?
Non, de luxe, c'est pas pour nous.
Essentiel, extra et premium, c'est ça. Voilà. C'est tout nouveau, c'est tout chaud. Ça n'est pas le Game Pass, ça a un peu l'odeur, mais ça ressemble au Nintendo Switch Online, mais ça n'est pas vraiment Nintendo Switch Online non plus.
Non.
Et il y a trois offres, et on ne sait pas où on est. Que se passe-t-il, Chloé?
Alors moi, n'ayant pas de console,
oui.
Je me permets de vous dire que je vais aux chiottes. Amusez-vous.
Vas-y.
C'est de la merde.
Vas-y. Le PlayStation, alors moi je l'ai rebaptisé le PlayStation Plus Plus.
Plus, c'est bien.
Ouais, le Plus Plus.
Plus Plus, c'est bien.
Le Plus Plus. Le PlayStation Plus Plus, je trouve que c'est absolument illisible en fait comme offre. Parce qu'en gros, alors ça a le même nom qu'une offre mais qui est différente. Donc en gros, PlayStation Plus, c'était pour jouer en ligne. Alors le PlayStation Plus pour jouer en ligne, il existe toujours, sauf que maintenant il s'appelle le PlayStation Plus Essentiel. Et en fait, à partir de là, ils ont bâti un autre service qui ressemble un peu au Game Pass, c'est-à-dire on va vous filer une librairie de jeux à jouer en illimité, à télécharger sur votre console, jeux PlayStation 4, jeux PlayStation 5. Donc ça, c'est le...
Extra.
Ça, c'est PlayStation Extra. Et il y en a un autre, il y a un dernier palier, le PlayStation Plus Premium, où en plus de ça, ils ont fait un pack spécial Retro Gamer, où là, en fait, ils ont foutu des jeux de l'époque de la PlayStation 1 à la PlayStation 3, avec un peu de PSP qui s'est perdu au milieu, avec pour le moment un catalogue que je trouve franchement inintéressant au possible.
Catalogue nul et des émulateurs complètement fumés.
Ouais,
aussi.
Ça, j'ai pas encore pu tester, mais en tout cas, voilà, catalogue nul et... Aussi, ils rajoutent, on va également rajouter des démos.
Démos de jeux.
Des démos de jeux de 2 heures maximum.
Entre 2 et 5 heures,
ouais. Ouais, oui. Entre 2 et 5 heures, voilà, par exemple, le dernier Horizon, Forbidden West, tu peux y jouer pendant 2-3 heures. Et puis, si ça t'a plu, tu appuies sur un bouton et tu l'achètes derrière.
Mais ce qui est bien, mais c'est payant.
De l'acheter, oui.
Oui, non mais enfin de tester la démo, c'est payant aussi.
Oui, du coup, oui, tester la démo.
Il faut payer l'abonnement le plus cher.
Le plus cher, celui à 17 balles par mois. Donc moi, je trouve ça hyper compliqué en fait d'avoir fait trois pricing différents. En plus, à l'intérieur, en plus, ça mêle les avantages traditionnels du PlayStation Plus, c'est-à-dire les trois jeux à télécharger par mois. Et si t'as oublié, ben tant pis pour toi. Plus le catalogue des essentiels, plus.
Chloé, fatiguée, c'est absolument terrible. Que se passe-t-il, Fibre Tigre ?
Ben, en fait, ça a chié.
Toi, t'aimes pas du tout l'offre telle qu'elle est présentée.
Mais en fait,
putain, il y a des excellents jeux.
C'est un appel au secours. C'est-à-dire, leur caisse continue de jouer, mais il y a le Titanic qui est en train de couler, tu vois.
Sérieux, tu vois ça comme ça ?
Le truc, c'est que, en fait, oui, moi, je vois vraiment ça comme, ok, le Game Pass, on n'y a pas cru, mais en fait, ça marche. Donc, il faut qu'on soit aussi des cool kids. On va faire notre Game Pass à nous. Alors déjà, c'est très compliqué. Ensuite, ils n'ont pas l'architecture fondamentale d'industrie pour ça. C'est-à-dire que par exemple, sur le rétro gaming, tous les jeux, enfin beaucoup de jeux Xbox, mais vraiment beaucoup, beaucoup, sont en rétro gaming. On peut acheter des jeux sur le store d'il y a très longtemps en rétro gaming dématérialisé. Parfois, ils sont même de façon complètement gratuite, complètement upscalée en 4K. Je pense à Knights of the Old Republic, par exemple. Donc, enfin, le Game Pass est installé. On possède les jeux à vie. On en a trois qui sont offerts par mois. Je parle du Game Gold. Ouais. Le Game Pass, le cloud, tout ça. Enfin, je veux dire, la structure matérielle, logicielle, marketing et marché de production. Ils produisent également trois triple A par an. Tu vois, ils ont des accords avec Bethesda, avec Riot. Et en fin de course, grâce à cette hyper architecture, tu peux faire une offre qui est le Game Pass, qui reste finalement très simple. Et là, évidemment, comme PlayStation, ils n'ont rien, ils sont obligés de créer un écran de fumée sophistiqué pour pouvoir dire on vend des trucs. Mais aujourd'hui, n'achetez surtout pas l'offre rétro gaming de PlayStation. Elle n'a aucun intérêt.
Ah ouais, elle est très décevante.
Même pour eux, tu vois, ils devraient... En fait, il faut... PlayStation, c'est une bonne console et c'est des bons jeux, mais il faut bien voir ce que c'est. C'est des grands jeux AAA. Vous allez en acheter 3 par an et vous allez vous éclater sur votre console. Et votre console servira à rien d'autre que ça aujourd'hui. Sauf s'ils changent énormément leur façon de fonctionner. Mais tant qu'ils n'ont pas changé leur façon de fonctionner, ça ne sert à rien d'avoir un Netflix avec trois jeux. Quoi. Ça ne fonctionnera pas.
Ouais, d'accord.
C'est vrai que le catalogue.
Il faudrait produire beaucoup plus, c'est
le
ça.
Le catalogue PS4, PS5 que propose le PlayStation Plus est quand même extraordinaire.
Il est ouf.
Mais pour moi, ma limite, c'est des jeux que j'ai déjà fait.
Oui, ben ça, c'est sûr.
C'est
une remarque qui revient beaucoup. Hein.
C'est génial, mais j'ai déjà fait.
Le joueur PlayStation est habitué de l'avoir déjà fait, ce jeu.
Ouais. Même, je vais te dire quelque chose, demain, il y a Horizon 3 qui sort. Si t'as le pass, tu vas quand même l'acheter. Tu veux le posséder, ce jeu. Tu ne veux pas le louer, parce que c'est un grand jeu. Et c'est pour ça que l'offre est destinée à... Moi, demain, il y a par exemple Red Dead Redemption 2 sur le Game Pass.
Je pourrais avoir ce raisonnement avec le Game Pass. Non, je reste sur le Game Pass.
Moi, j'ai ce raisonnement avec le Game Pass. Moi, quand j'ai un jeu Slay the Spire, Subnautica qui me plaît, j'achète le jeu parce que je veux qu'il soit à moi, à vie. Je veux pas qu'on me l'enlève à un moment parce que le Game Pass a décidé qu'on l'enlevait. Tu vois.
Je comprends.
Donc aujourd'hui, il y a...
Mais les jeux PlayStation sont tellement, c'est popcorn, genre tu les fais, puis tu les poses sur l'étagère. Sincèrement, c'est tous les jeux... Play, là, leur AAA était day one sur leur offre PlayStation Plus. Je prends que ça et jamais j'achète de jeux de ma life, mais jamais.
Mais sauf qu'ils le feront jamais.
Voilà, exactement. Mais ils le font, mais avec 2 ans d'écart. Ça peut m'intéresser.
Non, mais avec 2 ans d'écart par rapport à la sortie.
Oui,
parce que par contre, sortir day one, en fait, c'est absolument pas. Ils le feront pas parce qu'ils peuvent pas se permettre de perdre de la thune comme perd de la thune Microsoft.
Et puis, il y a un truc, ce qui va être terrible, projetez-vous dans 10 ans. Dans 10 ans, quand tu auras. Encore plus d'un autre Bethesda, je ne sais pas, qui aura signé avec Microsoft. Là, quand il y a Elder Scrolls 6 qui va sortir, on ne pourra y jouer que sur console, que sur Microsoft. Il sera gratuit sur console. Mais c'est insane. Je veux dire, déjà, tous les joueurs de RPG sur console, ils vont aller sur Xbox, tu vois. Il n'y a pas de...
La réflexion que j'ai eue quand j'ai regardé la conférence Xbox, qui était 95% de Day One dans le Game Pass...
Oui. Impressionnant,
mais après tu vois, quand je faisais le bilan, je me mets en fait dans le lot, mis à part Pentiment et Starfield, j'ai dit mais sinon le reste, j'étais genre ouais, mais
Forza,
en fait non, ouais, et... mais je joue pas à Forza, et donc j'ai dit ouais, mais en fait c'est des jeux qui moi m'intéressent pas, donc même si l'offre est ouf, je me dis éditorialement je m'y retrouve pas, alors que...
Attends, mais il y a pas le Dead Space qui est Day One dans Game Pass,
alors
aussi,
que tu vois, sur PlayStation, en fait je me retrouve plus chez les jeux Sony. Les jeux first party de Sony, en fait, j'adore. Et en fait, pour le moment, ça c'est vraiment totalement personnel, mais je trouve au niveau du catalogue, je trouve que Sony est meilleur que Microsoft.
Pour moi, Sony c'est le cinéma et Xbox c'est Netflix. C'est vraiment deux modèles différents.
Pour moi,
et de
Sony,
vraiment s'assumer les uns les autres. Quoi.
Bah en fait, moi je suis complètement à l'inverse de toi.
Ouais.
C'est-à-dire que j'ai pas acheté de PlayStation depuis la PlayStation 3 et que je ressens pas de manque.
Ouais. Mais après, toi, c'est des questions de goût, quoi. C'est juste, leur jeu te parle pas.
Ouais.
Et moi les jeux Microsoft, ils me parlent pas.
J'ai vu les jeux du line-up. Moi, justement, j'étais pas spécialement un joueur de jeux Bethesda. Parce que je trouvais Skyrim un peu trop froid, tu vois, et impersonnel. Et là, le fait que, bah, du coup, ils se retrouvent dans le giron de Microsoft, du coup, je suis obligé de regarder, et bah, je trouvais ça pas mal. J'ai dit, ah, ça, c'est chouette, ça, j'essaierai bien, ça aussi, machin, etc. Et je me dis, ouais, en fait, c'est vraiment, il y en a pour tous les goûts.
Le goût,
après, je pense que, je pense que le souci qu'on a, c'est de vouloir absolument tout consommer, et c'est un travers qu'on a tous.
Ouais.
Et je pense duquel il faut réussir à se libérer, parce que quand les films sortent en salle, tu te dis pas, je vais tout regarder.
Non.
Par contre, quand les jeux sont présentés, tu te dis forcément, bah, j'aurais pas le temps de jouer à tout ça, mais ne joue pas à tout ça, c'est pas grave, en fait. Tu vois? Donc il y a aussi ce truc là.
Tu penses que si t'avais une petite dose de Horizon, une petite dose de The Last of Us, ça te donnerait pas envie de découvrir tous ces jeux là?
Bah tu vois, je sais que je suis passé à côté d'un Uncharted 4 ou d'un Last of Us 2 par exemple. Fibre ouvre une bouteille de Rosanna et je pose la question, qui achète cette marque? C'est dégueulasse, je sais il y a du magnésium mais c'est dégueulasse. Je sais que je passe à côté de grands titres. Donc là j'étais même en train de me dire, est-ce que je m'achèterais pas une PS4 Pro pour faire ces jeux que j'ai loupés et qui doivent être maintenant pas chers, tu vois, et la console.
C'est un raisonnement que j'ai beaucoup entendu, ça, autour de moi.
Parce que je suis pas chaud pour acheter une PS5 pour jouer à des jeux qui sont sortis à 3, 4, 5 ans, tu vois, je me dis, ça sera un peu donner de la confiture au cochon, quoi, tu vois.
Donc pour toi, inintéressant ces offres PS Plus, si jamais un jour elles arrivent sur PC de façon convenable.
Oui, sur PC.
Alors là, c'est ce qui se passe maintenant avec 2 ans de décalage, il me semble, parce que là, on a Horizon Zero Dawn qui est sorti.
Attention, le PS Plus, le nouveau, ne te donne pas accès aux versions PC, hein.
Ah bon?
Mais il y a quand même une offre PC PlayStation Plus, mais je ne sais pas ce qu'il y a dedans.
Bah en si, cloud parce que gaming.
En cloud.
Oui, moi je jouais au PS Now, comme ça que ça s'appelait à l'époque.
Uniquement en cloud. Non, mais ce que je veux dire, c'est que
c'était du 720p
ton Game Pass, tu télécharges ton jeu sur le PC que tu as acheté, ton Game Pass sur console ou sur PC, et il est partagé partout. Ouais. Le PlayStation Plus.
Ils font des chichis.
Voilà, plus extra, c'est uniquement la console. C'est-à-dire, ton God of War est offert, par exemple.
Mais le cloud.
Tu n'as pas le PC.
Tu peux pas jouer sur le cloud en PC.
Et bon, ça, c'est
non, mais moi je veux pas la version.
C'est très légèrement différent entre clouder une version PS4 sur ton PC et jouer la version PC. Hein.
Franchement, à partir du moment où le jeu, je l'achète pas, qu'il soit streamé ou installé en local, j'en ai rien à battre. Hein.
Mais après, tu vois, si tu veux faire vraiment les grands jeux Sony, ils sortent tous sur PC maintenant.
Ouais, mais bon, il faut 2-3 ans de.
Un peu plus tard.
Un peu plus tard. Il y a un petit décalage, mais ils arrivent.
Et à 80 euros maintenant, ce qui fait mal sur PC.
Oui, voilà, en fait, le souci, il est là aussi. Hein. C'est que pas à n'importe quel prix.
80 euros Intergrade, ça fait mal quand même. Hein.
Ah ouais, le Final Fantasy 7,
Ça fait.
Et toi, Final Fantasy, je vais peut-être faire le remix, tu vois. Parce qu'il est sorti sur PC il n'y a pas longtemps.
Ouais. Joue au 15.
Genre cette semaine. Là,
ouais, c'est ça.
Final Fantasy 7,
ça reste 80 balles.
C'est 80 balles le 7 et le 15.
Non, mais tu ne veux pas conseiller le 15 alors qu'il y a le 7 remake qui est disponible sur PC.
Bah, je préfère le 15.
Le 7 remake, ouais, voilà. J'ai dit remix, c'était remake.
Remake.
C'était notre avis sur les nouvelles offres PlayStation Plus. On met fin à la pause et on va se terminer avec le billet d'humeur de Daz. C'est parti. Alors Dazouné, on t'excuse, puisque un homme occupé,
des événements.
Tu dois animer Commute, tu as des événements autour de toi.
Je dois animer Commute qui fonctionne, qui fonctionne très bien, c'est vrai. Non, oui, effectivement, des impondérables m'ont empêché d'écrire la chronique dont je voulais parler aujourd'hui, mais c'est pas
grave.
T'es un
streamer, t'es excellent en impro.
Voilà, je peux le faire en streaming. C'était simplement pour annoncer une bonne nouvelle, c'est le point business, c'est le point bonne nouvelle. Enfin, mesdames et messieurs, vous pouvez acheter des cartes graphiques pour vos PC, voilà.
Ah, oui. Super, je m'en fous.
Il y a plein de facteurs. Il y a plein de facteurs qui expliquent ça, mais grosso modo, le facteur principal, c'est qu'apparemment, j'ai cru comprendre que les cryptos s'étaient un peu vautrés.
Un petit peu. Il y a des gens qui ont perdu de l'argent.
Voilà, un petit peu.
Ah non, mais vrai.
Ah oui.
Je ne sais pas si je dois être satisfait de ça.
Un jour, on fera la chronique réponse à la chronique NFT de l'âme.
Ouais.
Et on fera, je pense, une émission de 6 heures dessus pour rigoler ensemble. Mais là, voilà. Donc le marché, c'est un petit peu vraqué. Apparemment, ça remonte, mais c'est à la marge. Mais du coup, eh bah, les mineurs de crypto étant des personnes pragmatiques avant toute chose, baisse du marché, baisse de l'oseille, ça refourgue des cartes, en veux-tu, en voilà. Ce qui fait qu'il y a beaucoup moins de tension sur les stocks des fabricants. Et du coup, il est tout à fait possible aujourd'hui d'acheter une carte Nvidia RTX de série 3000 chez votre revendeur.
Et au prix ou pas au
prix ? Un prix qui est maintenant, je crois, en moyenne à 10% au-dessus du retail. C'est-à-dire qu'une carte à 700 balles vous coûte 770 balles, ça va. Ouais, c'est à noter que les cartes... Que
t'achètes une carte usée 10% plus cher que
le... Non, je te parle le prix neuf. Après, les cartes usées, c'est encore autre chose.
Et je comprends pas, ils revendent leurs cartes ou pas ?
Il y en a qui revendent leurs cartes, mais okay. Du coup, il y a de toute façon du stock, puisqu'avant, les stocks des fabricants étaient préemptés directement par les mineurs, maintenant okay. C'est plus le cas. Donc, okay. Si même les mineurs revendent leurs stocks, c'est-à-dire que du côté des fabricants, il y a du stock en boutique. Alors, à noter que dans le haut de gamme, si on est chez Nvidia par exemple, donc les RTX 3080 Ti et la RTX 3090, qui je rappelle se vendaient de base à 1500 balles. Il me semble que ces deux cartes-là sont under retail, sous le prix de vente standard constaté en magasin. Pour les cartes qui sont du moyen de gamme et surtout de l'entrée de gamme, donc la 3060 typiquement, c'est encore 10-15% au-dessus du prix. Mais c'est largement moins que ce qu'on a pu constater à l'époque où moi, ma carte graphique qui est une 3080 Founders, elle était prix de base 719. Évidemment, je l'avais acheté 759 parce que j'avais cliqué tellement vite que j'avais acheté l'assurance facultative, mais voilà.
Hop.
Merci LDLC ou Top Achat, je ne sais plus chez qui j'étais. Mais moi, ma carte à 719 balles, à un moment donné, je pouvais la vendre sans aucun problème, elle est 500 euros quand
elle
même.
Elle t'a servi à quelque chose, cette carte ?
Ah bah Flight Simulator plus Stream en même temps, ouais, je pense que... Okay. Ah oui, je lui en ai mis dans la gueule.
Ok,
hein.
Ok.
Oui, alors ok, je joue à des jeux de chi, ok. Mais des fois, quand même, un triple A bien gras...
Flight Sim et Stream, la Xbox Series peut le faire. Hein.
Ouais. Bah alors vas-y, fais-le.
Bah je le fais pas parce que ça m'ennuie, mais...
Elle est où ta cam? En plus, t'as même pas de cam sur ta Xbox.
Ah si, on peut mettre une cam maintenant.
Ouais, super. Voilà. non mais ouais, si, je m'en suis servi. Évidemment, j'ai quand même joué à pas mal de jeux de merde, mais en fait, le confort de se dire, j'ai rien à régler, je prends l'écran comme ça, je secoue vers la droite, tous les curseurs, ils tombent à droite, ils se mettent à fond, tu vois, en ultra, comme ça, je secoue le moniteur pendant 2 secondes, après je le remets, et voilà, c'est bon. Tu te poses pas de questions, tu joues en 4K, tout en ultra, machin, let's go.
T'as un écran 4K?
Oui.
C'est aussi pour ça que je me suis mis à la console, parce que j'avais peu envie de régler les... J'avais pas envie de faire un choix entre
performance
et graphisme.
Moi, je suis complètement de cet avis aussi, je déteste.
Bah écoutez, pourquoi faire le choix quand en fait tu peux avoir et la performance et les graphismes et... Hein, ouais. Voilà. Mais on va pas refaire une chronique sur le PC.
On va pas refaire
voilà.
Le débat.
Donc voilà, les cartes sont en train de baisser. Alors évidemment, le conseil consommateur,
n'achetez pas
les cartes revendues en occasion, parce que ce sont des cartes qui ont tourné à 150% pendant, 24 heures sur 24, pendant des semaines et des semaines et des semaines. Donc, de toute façon, ces cartes-là, déjà, un, il y a de fortes chances que le BIOS, ça soit un truc flashé, bizarroïde. Donc, on n'achète pas ça. Deuxièmement, en fait, elles sont usées vraiment pour le coup, là. Les mecs, ils les crament, quoi. Donc, ou alors, vraiment, si vous trouvez une RTX 3080 à 250 balles, ok, admettons. Mais voilà, soyez conscients du fait que ce sont des cartes qui en ont vu beaucoup trop, je pense.
Ouais.
Voilà, qui sont marquées par la vie, tu vois.
Très bien, deuxième conseil peut-être ?
Deuxième conseil, n'achetez pas de cartes tout court, parce que évidemment, l'autre point qui explique la baisse des prix,
c'est la nouvelle génération. Ah, ben voilà.
C'est la série 4000.
Il y en a plus, il y en a encore.
Voilà. Non, j'ai pas regardé côté AMD. Je pense qu'ils sont pas au même. Ils sont pas en train de présenter leur nouvelle série parce que là, on est sur les 6000 quelque chose chez AMD, les XT 6000 là. Mais Nvidia a commencé à évoquer effectivement sa série 4000. Donc ils vont commencer comme d'hab par. Une 4090 qui va enterrer tout ce que la série 3000 faisait, sachant que entre les séries 2000 quelque chose et les séries 3000, on a eu un vrai gap appréciable.
Oui, c'est vrai.
C'était ça qui était d'autant plus frustrant que, un, les prix n'étaient pas si dingues que ça pour un gain de performance qui était à minima de 30% sur n'importe quelle carte, donc c'était fabuleux, sauf qu'il y en avait zéro disponible, donc ça énervait les gens. Là, la série 4000, je ne sais pas encore, parce que je ne sais même pas s'ils ont sorti des benches ou quoi. Pour l'instant, ils les ont juste teasés, je pense. Ils n'ont pas...
Ne me regarde pas comme ça.
Je ne sais pas, parce que c'est vous qui suivez les news du jeu vidéo, puisque vous en parlez tous les jours. Donc, effectivement, Le gars qui serait patient vous dirait quand même attendez les annonces en septembre, ça va bouger.
C'est le cycle éternel. Hein.
Alors, voilà. Moi, je fais une mini prédiction, c'est que les cartes vont être à nouveau épuisées parce que aujourd'hui elles sont extrêmement utilisées dans l'IA. Et je vois. Aujourd'hui, il se passe des trucs en IA.
Assez ouf.
Sur Twitter avec DALL-E et d'autres choses.
Ouais. Donc, j'utilise les GPU, ça ?
Alors, non seulement c'est les GPU, mais les GPU sont les trucs les plus adaptés au monde pour faire de l'IA. Pourquoi ? En deux mots, c'est qu'en fait, quand vous entraînez une IA à faire des images, par exemple, en fait, elle crée un monde virtuel à plusieurs dimensions, mais imaginez à trois dimensions, elle l'optimise en permanence. Et donc, en fait, c'est comme imaginez un open world comme Assassin's Creed avec plein d'images qui est en train de s'optimiser en permanence. Et donc, il y a besoin de la 3D et il y a besoin de cartes optimisées. Et les mineurs de Bitcoin, ça a été vraiment les ennemis des créateurs d'intelligence artificielle longtemps.
Alors, je pense juste qu'on ne parle pas d'un même marché. C'est-à-dire que faire de l'IA, c'est beau pour la recherche, c'est beau pour la science, et éventuellement tu vendras peut-être ton truc à Google. Miner des cryptos, ça te rapporte de l'oseille instantanément pour les gens qui se mettent dedans. Donc, je pense que la logique commerciale n'est pas la même, et qu'il y aura quand même moins de chercheurs en intelligence. Alors moi, franchement, s'il y a autant de demandes en carte graphique, parce qu'il y a énormément de chercheurs en intelligence artificielle qui se mettent à charbonner, franchement, on vit dans un monde incroyable.
Il y a un truc qu'on peut faire, on va faire une mini-pause, on va aller sur CEDI, je ne sais pas si vous connaissez CEDI. CEDI, ça ne vous dit rien ? C'est un IA en ligne française, et on dit « Ma chronique va porter sur les cartes graphiques », tu écris juste cette phrase et elle t'écrit la chronique, en direct là.
Ah, pas mal.
J'ai déjà vu travailler.
En fait, on en est. Moi, j'ai fait des conférences en mode l'IA ne va rien changer aux jeux vidéo. Là, évidemment. En fait, l'IA ne remplacera jamais un humain pour crafter un jeu vidéo. Et là, maintenant.
Tu parlais pas de la même type d'intelligence artificielle. À une époque, c'était pas des machines learning.
Je parlais des réseaux neuronaux.
Ouais,
mais.
Tu t'es bien planté, Fibre.
Alors, c'est pas tout à fait ça. C'est que la question des spécialistes de l'IA, c'est est-ce qu'il y a un plafond de verre ? C'est-à-dire, est-ce qu'on va arriver, tu sais, à cette uncanny valley où, c'est presque pareil comme si c'était un humain, mais c'est pas un humain, tu vois. Et en fait, le plafond de verre est repoussé en permanence.
Mais non, mais là, ils ont teasé le truc de l'ancien Google.
On va faire CEDI et tu vas nous lire la.
Attends, le truc de l'ancien Google, là, avec son IA qui a peur d'être débranché parce qu'elle a peur de mourir.
Les gens
ont pris le bait en mode ça y est, c'est Skynet, on va tous crever, calmez-vous. Machine learning, c'est juste se tromper suffisamment rapidement. En nombre de millions de fois par seconde pour tomber juste à un moment donné. Voilà,
c'est pas tout à fait ça. En fait, elle donne l'illusion de l'intelligence, mais après, on pourrait poser des questions.
Mais non, c'est des biais par rapport au dataset qu'on lui a fait bouffer. Elle te répond ce que tu as envie de lire. C'est juste ça.
Oui,
c'est une artiste de variété, quoi.
Nous sommes tous pas tous des artistes de variété. On en reparlera peut-être, ce sera intéressant, mais voilà.
Ils ont forqué ma chronique sur la carte graphique. Donc, globalement, les prix baissent aux ANA, les nouvelles arrivent, fait chier. Voilà, débrouillez-vous avec
ça. Très bon résumé.
Écoute, ça résume bien. Merci, Daz. Peut-être êtes-vous en train d'attendre les prochaines cartes graphiques. On va se terminer avec quelques questions du public de qualité. Première question de Zoltan Saturne. Trois jeux vidéo qui sont pour vous les plus gros game changers all time.
Question infinie, on va faire une émission d'une heure.
C'est facile.
Je demande trois noms et je ne vous demande même pas pourquoi.
Allez, moi je t'en donne un.
Vas-y.
Doom,
très bien.
Moi je t'en donne un deuxième.
Alors je voudrais plus dire Wolfenstein 3D, mais je trouve que Doom a été plus.
Très bien, Doom, on est tous d'accord. On est d'accord.
Deuxième du jeu.
GTA 3.
GTA 3.
World of Warcraft.
World of Warcraft, ça fait 3.
Je me dirais Assassin's Creed pour l'open world.
Ah,
quelle violence!
Pour l'open world, c'est désolé, c'est ça a lancé la formule.
C'est tellement fou.
Non, ça a lancé la formule des tours qu'on a vu dans Zelda Breath of the Wild.
GTA 3, l'open world, vous êtes fous, quoi.
Oui, c'est vrai.
T'étais pas né, mais GTA 3.
On peut dire aussi les Sims, quand même, une milestone incroyable. Également SimCity dans la foulée.
SimCity, on peut dire en fait un jeu par catégorie, je pense.
Il y a un jeu comme Lemmings, pour moi, il a été absolument incroyable. Il est sorti de nulle part. Ça n'a pas créé une trend.
C'est vrai.
StarCraft 2. Enfin, on pourrait dire Dune 2, mais StarCraft 2, c'était l'apex du truc.
StarCraft 2,
Super Mario, exactement.
J'irai aussi, vous allez rire, mais International Superstar Deluxe.
C'est quoi ?
C'était ISS, le jeu de foot avec la passe en profondeur et ça a tout changé.
Game changer
dans les jeux de foot.
Game changer.
Passe en profondeur, ça change tout.
Arrêtons-nous là, on pourrait continuer très longtemps.
Et les Dangerous.
Quels sont les meilleurs jeux pour jouer avec sa moitié qui ne joue pas aux jeux vidéo ?
Alors déjà, c'est pas It Takes Two, ok?
Voilà.
Ouais, sinon, vous allez vous déchirer.
Ça n'est pas It Takes Two.
On a bien compris.
C'est pas It Takes Two ou...
A Way Out, peut-être.
Pour jouer avec sa moitié.
Ça dépend si tu veux jouer en mode jeu lanterne ou en mode coop.
Il paraît que Until Dawn, c'est un très bon jeu pour voilà, les gens qui ne jouent pas. Donc c'est encore un
truc de zombies, ça.
Non, en fait, c'est un simulateur de film d'horreur. Voilà, en gros, t'incarnes un groupe de personnes dans une maison. Évidemment, il y a un serial killer. Et en fait, voilà, tu choisis, genre, est-ce qu'il faut la gauche, est-ce qu'il faut la droite, ouvrir la porte, quitter le groupe, etc. Et en fait, tu prends les décisions. Et si tu joues à deux, j'ai des retours de gens qui m'ont dit, en fait, c'est super en fait, pour les gens qui ne jouent pas. Parce
c'est
qu'il y a le côté.
En fait,
t'as un peu comme un jeu David Cage, en fait, t'as un peu l'écran qui se frise. Et tu prends tes décisions comme The Walking Dead. En fait, c'est des jeux hyper narratifs et dans lesquels c'est des jeux dont vous êtes le héros. Et du coup, c'est très facile à aborder pour des gens qui ne jouent pas.
Pas... Détroit Become Human, pour moi.
J'ai
vraiment,
pas... C'est le même style.
Mais ça joue pas à deux. Ça joue à...
Ah, ça joue complètement
deux
à deux.
Avec une seule manette.
Ça peut jouer
oui,
à deux, en fait,
une seule manette.
Ensemble.
Ça joue à deux. Tu décides
oui,
ensemble.
Oui, voilà, d'accord. Okay.
Ensemble.
Non, moi,
il y a un vrai jeu en coopération qui se crée dans le jeu.
D'accord.
Okay. Juste de prendre ces décisions ensemble, en discuter, voir comment tu veux aller. C'est bon pour la communication, ça fait du jeu. Celui qui sait utiliser une manette prend la manette.
Prend la manette.
L'autre prend les décisions.
Quand il y a des QTE, tout ça, il les gère. Mais après, quand c'est vraiment pour prendre des décisions de scénario, t'as besoin de te poser, discuter, qu'est-ce que tu veux faire, on fait quoi.
Super.
Donc là, c'est quand même deux jeux qui sont plutôt orientés narration. Plus que action.
Il y a un jeu, j'ai plus le nom, mais on doit ranger des caisses dans un Ikea. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, il est finlandais.
Oui.
Ah ouais.
Et je le trouve incroyable, j'ai vécu une très bonne expérience à deux.
Très bien.
Il était sur
le Game
Pass.
Warehousing, non, je sais plus comment ça s'appelle.
Si, c'est
ça
peut-être. Warehousing.
Ouais, Wilmot Warehouse.
Ouais, on en avait parlé dans un quête latérale. Non, puis après, je pense au fait, tous les jeux, tu vois, les Wii Sports et compagnie, quoi. Enfin, les jeux de motion gaming qui jouent à plusieurs. Enfin, pour les gens qui savent pas jouer, il n'y a rien de tel.
Un vrai jeu, tu vois, pour avoir un soutien moral et tout, c'est genre Star Citizen.
Mais s'il vous plaît.
Le fan de Star Citizen, donc qui a acheté 1 500 € un vaisseau qui marche pas. Bon,
ouais.
Une fois que sa femme sait qu'il a mis 1 500 balles dans le jeu, elle va le soutenir de ouf.
Alors moi, ce que je fais avec ma femme, c'est que on joue à des jeux où il faut une soluce, quoi. Et donc l'autre regarde la soluce, tu vois. Mais moi, ce qu'on fait, c'est qu'on va sur les forums de jeuxvideo.com et on dit message de Alizar 448. Salut les gars, il y a une faute à salut. je suis coincé moi aussi au niveau de la potion blanche. Qu'est-ce que je dois faire? Mec, il y a déjà une réponse. T'as qu'à regarder sur le forum, tu vois. Donc, on a droit à Liège, j'ai droit à tout ça, et c'est plutôt pas mal. Ça cimente notre couple.
Absolument, absolument incroyable, Vivre Tigre. Question de Oberis. Ma nièce a 4 ans et aime les jeux vidéo. J'hésite à lui acheter une console de jeu. À quel âge avez-vous laissé vos neveux, nièces, enfants jouer aux jeux vidéo?
Ça dépend de l'époque.
Un peu tôt, 4 ans quand même.
Ouais, ça me paraît.
Je pense que pour moi, c'est l'entrée au CP.
Entrée au CP, 5 ans.
Du temps de Studio 404, on citait Serge Tisseron qui disait pas d'écran avant 3 ans. Après, une console, c'est compliqué, mais je pense que...
En tout cas, il faut une console plus que des jeux iPad et des consoles.
Les jeunes parents aujourd'hui, ils donnent quand même la tablette aux enfants.
Ils donnent
la tablette.
C'est
déjà mort.
C'est pas bien.
Vous avez perdu.
C'est de la merde.
C'est pas bien. Pourquoi c'est pas bien? Dites-moi.
Mais parce que malheureusement, quand tu donnes des jeux de tablette, généralement, c'est pas des jeux que tu as acheté, c'est généralement c'est du jeu flash, c'est du jeu flash ou c'est de l'application gratos.
Des modèles économiques dégueulasses.
Voilà, dégueulasses. Donc, soit c'est le jeu flash est pourri, soit ça va être de l'application gratos dans laquelle tu vas être bombardé de publicité.
Ouais.
Et je pense pas que ce soit la meilleure chose que tu puisses donner
à ton enfant. Ou des jeux basés sur l'addiction.
Oui, basés sur l'addiction, sur les trucs très criards.
Moi, franchement, meilleure décision ever du jeu vidéo pour ma fille, la Switch. Hein.
Ouais.
Switch avec le contrôle parental activé, allez-y tranquille, franchement. C'est...
Mais tu vois, pour l'âge à quel commencer, moi pour le coup, mon expérience personnelle, j'ai commencé à 5 ans. C'était très progressif. En fait, je regardais ma sœur jouer et après, j'ai eu un jeu à moi, mais du coup, j'ai joué un petit peu. En fait, c'est monté progressivement. Et la console, c'était pas la mienne, c'était celle de ma grande sœur. Et c'est juste que voilà, je joue un petit peu avec. Et c'est pareil, ma nièce aussi a commencé à jouer assez tôt, mais pareil, alors elle, malheureusement, c'était via ordinateur, jeu flash, jeu navigateur et tablette. Et j'étais désespérée par ce à quoi elle pouvait jouer. Et j'avais fini par lui acheter, quand elle était un peu plus âgée, quand elle avait genre 8 ans, une sorte de Mega Drive Mini, quoi, pour et dire bon bah ouais, voilà un petit truc comme ça tu joues à des Sonic parce qu'elle aime bien les jeux rétro.
Ah cool.
Et sympa. Ah ouais, elle est très rétro gameuse hein. C'est
mais j'ai remarqué ça chez beaucoup chez
ouais, la mienne aussi,
chez mon neveu et aussi mon filleul, c'est exactement pareil. Super NES Mini. Fini tout.
Oui, absolument incroyable. Les jeux sont simples. Hein.
Et ouais. Pokémon qui reste toujours aussi rétro dans le monde des genres. À quel âge avez-vous commencé le jeu vidéo? Vous vous souvenez? Tu te souviens?
Bah, du coup, 5.
5 ans.
Je me suis toujours joué, je ne sais pas, on va dire 4 ans.
4 ans,
10 ans.
10 ans, d'accord. Moi, c'est 8. Hein. Donc, c'est aussi un peu plus tard. La VR, est-ce qu'on y croit toujours? Question de Bast. Avec l'arrivée du PSVR 2 et les futurs casts Oculus, la qualité pourrait être nettement meilleure. Pourquoi est-ce que personne ne se lance dans un GOTY VR?
En fait, il y en a un GOTY VR, c'est Alyx, Half-Life, qui marche très très bien.
Faut pas jouer à ça, ça fait trop peur.
Bah, en fait, alors moi, je suis team flippette, donc clair. En fait, la VR restera à l'état dans lequel elle est là, c'est-à-dire que ça existe et ça marche.
Ok.
Mais je pense que ça percera jamais parce que t'es isolé quand tu. Ouais. En fait, ça marchera
même
pas.
Même avec Metaverse et toutes ces.
Mais en fait, je sais pas. Je crois que Facebook a présenté une tétrachier de projets de casques VR. Ouais. Genre, je sais pas, ils en ont présenté 20 quoi. Tu vois, des trucs avec des gammes différentes, diverses et variées.
En fait, ce qu'ils ont présenté, ce que j'avais assisté à la conf, en gros, c'est leur proto en interne.
Ouais.
C'est en gros ce qu'ils veulent. C'est qu'ils disent, ils veulent viser à quelque chose d'ultra réaliste. Qui donne l'impression d'être vraiment dans une sorte de réalité. Et en gros, ils travaillent sur quatre technologies principales. Et en fait, chaque casque travaille sur ces technologies. Et ensuite, ils veulent sorte de merger tout ça sur un seul casque. Mais ils disent, mais bon, ça, c'est pas avant 10
là,
ans.
Là, ils taffent sur des trucs avec du HDR. Ouais. Ils taffent sur des trucs avec genre 4K dans chaque œil. Donc, ils disaient que tu pouvais lire dans un casque VR le truc des opticiens, là.
Ouais.
C'est les grilles
problème.
Sans problème, même
c'est
les petites lignes.
Ouais.
Donc, ça veut dire qu'on va arriver à la définition.
Mais tu crois pas au triple A VR.
En fait, si, mais ça restera un jeu VR. Ça sera jamais comme si c'était un jeu console que t'as au milieu du salon et auquel tout le monde joue parce que t'es fermé dans ton casque, t'es tout seul en fait.
Très bien, Philippe, t'y crois?
Non.
Ok, très bien. Bon, au moins, la réponse
est claire. Moi, je pense que ça disparaîtra pas, mais ça sera jamais le truc que tout le monde a voulu que ça soit à un moment donné en disant ça va remplacer le jeu vidéo classique.
Petite question pour terminer de Modolo, très dans l'air du temps, et peut-être qu'on en fera une chronique. Hausse du prix de la vie, inflation, sommes-nous à l'aube d'une deuxième crise du jeu vidéo, selon vous? On a vu énormément de jeux sortir, un prix de jeu commence à devenir très cher.
Ouais,
et les ventes, et je ne sais pas si tu as vu, les ventes depuis la première fois depuis des années de jeux vidéo qui chutent.
Non, mais elles ne chutent pas parce qu'ils sont chers. Elles chutent parce qu'on a été enfermés pendant 2 ans et on avait envie d'aller dehors plutôt que.
Écoute, ça n'est pas ponctuel, tu vois. Je ne sais pas si ça va continuer, mais en tout cas, oui.
En fait, dans le même temps,
les ventes de jeux chutent.
T'as à la fois une console qui sort, qui est difficile à trouver, des deux côtés d'ailleurs, qui sont difficiles à trouver, et qu'en plus,
à la crise aussi.
Pour un des deux côtés, les prix sont à 80 balles. Mmh. Et que dans le même temps, t'as l'autre qui te dit moi tu me files 15 balles par mois et t'as plein de jeux gratuits.
Oui.
En fait, est-ce que l'absence des ventes est compensée par l'utilisation du Game Pass?
Ça peut s'expliquer aussi.
Parce que,
là, je vous parle crise, j'y vais. À ton avis, est-ce qu'on est à l'aube d'une nouvelle crise? Trop de production, intérêts des gens pour le jeu.
Si on prend vraiment le côté inflation, parce que c'est vraiment la question, c'est l'inflation.
Exactement.
Est-ce que, grosso modo, les ménages vont devoir faire des choix et vont dire on va cutter dans les loisirs, on va cutter dans le jeu vidéo? C'est possible. C'est pour ça, en fait, je pense que peut-être que les catalogues du coup illimités type Game Pass ou PlayStation Plus
vont gagner en intérêt.
Peuvent gagner en intérêt parce que c'est vrai que surtout pour les gens qui ne sont pas non plus hyper hardcore à acheter à 80 balles immédiatement tout ce qui sort quand tu te dis pour 10 euros par mois, 10, 20, 15, tu peux avoir tout un catalogue qui va t'occuper et tu peux couper à tout moment aussi. Ça peut être une bonne solution. Enfin, c'est une bonne offre.
Mais au Figaro, il n'y a pas d'indicateur qui montre que le jeu vidéo s'approche d'une crise.
Non. Okay. Non. Mais après, enfin, toi, c'est comme tout. Enfin, il y a plein de secteurs. Oui, il va y avoir des arbitrages. Moi, je pense par exemple, ce qui me vient beaucoup plus en tête maintenant, c'est tous les services de vidéo à la demande, tous les Netflix et compagnie. Bon bah, je connais il y a des foyers, ils ont
chez
tout.
Eux.
Et il ne restera plus qu'un.
Moi, j'ai commencé à dégager, tu vois. J'ai dégagé Disney Plus.
Je suis sur le point de dégager Netflix là, mais
pour
la daronne.
Il y a une personne dans mon couple aussi qui veut pas se séparer de Netflix. Pourtant, pour moi, au zéro intérêt quoi.
Moi, c'est ma fille qui regarde. Hein. Je regarde plus Netflix. Mais effectivement, je suis d'accord. À un moment donné, quand t'as balkanisation du marché, après t'as concentration. l'action et puis
le jour où Netflix arrête le partage de compte famille, je me désabonne immédiatement.
Ça va arriver,
bien sûr. Oui.
Chloé, tu veux pas dire quoi ?
Non, juste je continue à réfléchir à la question et je me disais aussi après, tu vois, pour le jeu vidéo, après, enfin, t'as des moyens en fait de jouer à tous les prix. Voilà, on parlait de l'Eurojunk tout à l'heure. Enfin, t'as aussi quand même des jeux, enfin, avec les systèmes des soldes, systèmes de prix cassés.
Survivor, tu vois.
Tu peux quand même jouer, tu peux quand même t'amuser pour 10 balles, quoi. Enfin, c'est
pour 1 euro, Vampire Survivor, par exemple, pour moi, c'est typiquement la réponse à est-ce qu'il y aura un bon jeu vert un jour, tu vois. Bah non, la VR, c'est pas un support qui permet plein de choses, mais bon.
Si, ça permet trop de choses.
Après, tu vois, l'indicateur, ce sera peut-être, voilà, faudra plutôt regarder les ventes de AAA. Est-ce que les ventes de AAA seront ou pas? Parce que là,
en fait, aujourd'hui, le AAA n'est plus, enfin, ne fait pas.
Qu'est-ce qu'un AAA? Est-ce qu'on ne le rappellerait pas pour les auditeurs les plus distraits?
Aujourd'hui, en fait.
C'est des gros jeux à gros budget.
Comment dire? Quand un AAA sort et qu'il est vendu, disons, 70 euros, peut-être qu'il n'est pas sorti pour faire de l'argent. C'est quelque chose d'hyper paradoxal. C'est-à-dire qu'il va permettre à Microsoft de vendre des Game Pass, ou il va permettre à une licence genre Batman de se consolider parce qu'il y aura un film qui va sortir derrière. C'est vraiment très contre-intuitif, le jeu vidéo.
Ouais, j'avoue, hein. Stratégie multimédia de Sony. Hein,
voilà. Je voulais juste dire un truc sur la crise. C'est que je pense qu'il y aura... Après, c'est vraiment...
Attention, tes prédictions sont souvent fausses. Justes.
Fibre Tigre, dans son univers, qui voit que l'univers par ses yeux, d'accord ? Ouais. Mais on aura peut-être une crise de la production value, parce qu'aujourd'hui, en fait, le jeu vidéo, il était face à un marché qui voulait du jeu vidéo. J'en veux encore plus, et on en vendait plus. Mmh. Et on s'est permis de faire des choses comme cloner des jeux. C'est-à-dire, 2048, il marche bien. Marche bien, je vais faire 2048 et je vais faire un autre 2048. Donc, on clonait des jeux. Aussi, on faisait de la production value. C'est-à-dire qu'on avait un jeu qui coûtait 5 euros, un Vampire Survivor, qui était très bien. Ouais. Tu sais quoi ? On va mettre de la 3D, une cutscene et un voice acting de Matt Damon et on va le vendre 35 euros. Ouais. Et je pense que peut-être... Comme les gens, ils vont se dire, c'est bon, maintenant je veux du slow food, tu vois, du Jean-Pierre Coff, je veux du vrai jeu vidéo. Et ils vont arrêter de tomber dans ces pièges complètement cons. Et on va peut-être avoir une crise du jeu vidéo superficiel, on va dire.
Ah, ouais.
Parce que l'autre truc auquel je pensais, là, l'exemple qui vient tout de suite, c'est le cinéma. Là, actuellement, le cinéma, bon, ça repart, mais ça a quand même beaucoup de mal.
Méga rush. Hein.
Ouais, c'est parce que c'est super cher, les places sont devenues hyper chères. Et aussi, voilà, pendant 2 ans, les gens aussi ont goûté aux joies des abonnements vidéo. Et ils se disent, quand tu vois le prix que coûte une place, c'est-à-dire un mois d'abonnement Netflix, pour une seule personne voir un film au cinéma, quand tu as une famille, je pense que tu fais vite le calcul qu'il vaut mieux prendre Netflix ou Amazon ou OCS ou un autre.
Non, en fait.
Non, mais juste pour le même prix, tu as un catalogue incroyable. Enfin, tu as plein de trucs à regarder pour toute la famille. Donc, je comprends tout à fait le calcul que peuvent faire les gens. Du coup, on pourrait se dire, est-ce que ça va pas être pareil pour le jeu vidéo? Les gens vont se dire, qu'est-ce que je vais acheter un jeu 70 balles alors que je peux avoir le Game Pass à côté. Mais comme c'est assez nouveau le modèle du Game Pass et PlayStation Plus, et que là, par exemple, le Game Pass, ce n'est que 25 millions d'abonnés.
Attends, les chiffres datent de janvier.
Oui, ce n'est que 25 millions d'abonnés.
C'est vrai.
Sur plus de 200 millions de personnes qui ont une console de jeu.
C'est ça.
Donc c'est quand même tout petit.
Ça fait on est au-dessus de 10%.
300 000, j'oubliais la Switch.
PS Plus, on est largement au-dessus des 45 millions, tu vois. Donc on est deux fois plus, voire même...
Oui, mais le PlayStation Plus, et pas le Plus, c'est uniquement pour jouer en ligne.
Mais
bref, je pense qu'il n'y a pas encore d'habitudes qui se sont installées chez les consommateurs. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, t'arrêtes des gens dans la rue, tu leur demandes, vous connaissez le Game Pass? Ils font, hein, quoi? Et donc peut-être qu'il n'y aura pas un shift qui se fera, parce que juste, c'est pas encore très, très connu, c'est pas rentré dans les usages. Contrairement, alors par contre, que si ça avait été vraiment ultra popularisé pendant le Covid, peut-être que ma réponse aurait été différente.
Ah, j'avoue.
Mais Netflix, c'est pas fait en un jour non plus, donc...
C'était très long, Netflix, c'est depuis 2014.
Netflix, on pourrait dire
hein.
qu'il ne s'est pas encore fait, puisqu'il a augmenté discrètement ses tarifs.
Mmh. Ouais.
Donc, en fait, je pense qu'il est en train de chercher son point d'équilibre après avoir conquis le marché.
Oui, mais le mode de consommation, lui, il est installé, donc ça, c'est fait.
Oui.
Et donc pour le jeu vidéo, je pense que oui, l'avenir est aux offres type Game Pass.
En tout cas, on ne voit pas de crise venir ici. On ne risque pas d'aller enterrer God of War Ragnarok dans les déserts d'Arizona.
Une crise serait la plus belle chose en tant que joueur qui nous arriverait, puisque si demain on a le choix entre 4 jeux, on achète les 4 jeux, on y joue, on est trop content.
C'est un vrai jeu, God of War Ragnarok.
Oui.
On n'a pas plein le cul des univers nordiques, Valhalla, Viking, mon cul.
C'est ce que je disais, crise de production value.
C'est God of War 2, les jeux PlayStation sont les mêmes avec un nouveau nom.
Et désolé, mais lors de ce nom E3, il y avait beaucoup trop de jeux spatiaux.
Spatiaux et d'horreur.
S'il vous plaît, il y a d'autres imaginaires en fait.
Non, mais enfin, d'accord, mais merci, mais après le tunnel de jeux viking mon cul nordique qui neige.
Ça
va. Hein.
Il y en a marre du spatial, j'en ai déjà marre.
Tu veux quoi? Tu veux du fermier, c'est ça? Tu veux du bucolique?
Sachez qu'on a appris ici que la production value n'aura absolument plus aucun intérêt à l'avenir, ce qui permettra à ce podcast enregistré sur Zoom d'être le plus écouté de tous les quêtes latérales grâce à vous.
Et il va tellement
bien
être
entendu
le plus écouté qu'on va être obligé de l'enregistrer sur Zoom.
Ce qui est formidable, ce podcast touche à sa fin. Merci à toutes et merci à tous de nous avoir écoutés. Fibre Tigre, évidemment, merci beaucoup. Dazounet, toujours un plaisir. Chloé, et idem, plaisir.
Merci Ken.
On a terminé avant que le soleil se couche.
C'est fou, bah oui, parce que là, on va aller manger. On est discipliné. Je voulais que ça fasse une heure et demie. On y est quasiment. C'est propre. Voilà.
Merci Zu pour la réelle.
Ouais, merci beaucoup.
Zu pour la réelle.
Merci à tout le monde.
N'hésitez pas évidemment à passer sur le Discord, bien sûr, pour commenter ce podcast.
C'est ça.
Patreon, tout ça. Vous le savez, on vous aime. Bisous à tous.
Et sommez à ma chaîne d'AsJDM sur Twitch.
Évidemment.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.